Je commence par vous faire un petit rappel de ce qu'on a acquis la semaine dernière. Je commence par un petit rappel de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis je vais enchaîner sur des parties peut-être un petit peu plus techniques, avec notamment la question du symbolique. Et donc, voilà, ça va peut-être vous paraître plus théorique, mais c'est pour mieux retourner après à l'utilité de ce genre d'analyse pour la politique. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu ? Comment il faut comprendre la notion d'institution imaginaire sociale, à savoir comme l'ensemble de ces significations, comme dit Castoriadis, ou de ces représentations fondamentales sur lesquelles sont fondées les institutions d'une société, aussi bien ces institutions concrètes qui organisent, qui structurent l'activité sociale, que ces institutions beaucoup plus abstraites comme l'institution, comme les normes éthiques, les valeurs, les motivations que se donnent des membres d'une société, etc. Et parmi ces représentations générales, on a notamment les divisions internes de la société, divisions en genre, en classe, en profession, tous les modes de vie, modes de production, types d'activités qu'on développe, et aussi, peut-être plus fondamental encore, la représentation de l'identité même du groupe, de son rapport avec ce qui n'est pas ce groupe, donc son rapport avec les autres hommes, avec les autres êtres vivants, avec le monde en général. Tout ça, en fait, fait partie de ces institutions fondamentales, de ces significations fondamentales d'une société. Mais, comme on l'avait vu aussi, c'est le plus souvent implicite et même inconscient. Voilà, la plupart des sociétés ne se disent pas explicitement ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, comment elles s'organisent. Et je vais ajouter à ce qu'on avait vu la semaine dernière un petit extrait, la lecture d'un petit extrait, si vous voulez le retrouver dans l'ouvrage, c'est page 221, parce qu'il insiste là-dessus, et ça vaut la peine, sur cette notion de comment en fait émergent ces questions et ces réponses. Donc toute société jusqu'ici a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité ? Que sommes-nous les uns pour les autres ? Où et dans quoi sommes-nous ? Comment interpréter le monde ? Le monde n'est pas simplement un donné brut. En fait, chaque société interprète son monde. C'est-à-dire que le monde, il passe par des sortes de filtres qui sont qu'est-ce qui est utile pour nous ? Dans quoi allons-nous ? Qu'est-ce qui est dangereux ? Comment explorons-nous le monde ? Est-ce que nous l'estimons être à notre disposition, par exemple ? Est-ce que nous pouvons prendre ce que nous voulons ? Transformer ce que nous voulons ? Est-ce qu'au contraire, nous avons l'impression d'avoir affaire à quelque chose de sacré, ou du moins en partie sacré, auquel on ne peut pas toucher, etc. Donc il y a toujours une interprétation du monde, on ne le reçoit jamais de manière brute. Où et dans quoi sommes-nous ? Donc, que voulons-nous ? Que désirons-nous ? Qu'est-ce qui nous manque ? Vu la question du manque et du besoin, évidemment, qui est cruciale. La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse, et il met entre guillemets, vous allez voir pourquoi, sans la réponse à ces questions, entre guillemets aussi, sans ces définitions, entre guillemets, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture. Car tout resterait chaos indifférencié. Les distinctions entre les choses qui ont des valeurs différentes pour nous sont complètement instituées. Elles ne sont pas spontanées, elles ne viennent pas de la biologie. Bien entendu, lorsque nous parlons de questions, de réponses, de définitions, nous parlons métaphoriquement. Et voilà pourquoi les guillemets. Nous parlons métaphoriquement. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de questions et de réponses posées explicitement. Et les définitions ne sont pas données dans le langage. Donc, justement, on aurait tendance à dire, une définition, ça passe forcément par le langage. C'est une explication de la signification de quelque chose. On dit, voilà, je le place dans tel ensemble, je lui donne telle particularité, telle caractéristique essentielle. Une définition, pour nous, c'est du langage. Mais celle-là, non. Ça ne passe pas par le langage. Et comment, alors, est-ce que c'est donné ? C'est ce qu'il va dire ensuite. Les questions ne sont même pas posées préalablement aux réponses. Il n'y a pas un moment, dans la plupart des sociétés, il n'y a pas un moment où on se pose ces questions et ensuite on y répond. Dans la plupart, non. La société se constitue en faisant émerger une réponse de fait, à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est dans le faire de chaque collectivité qu'apparaît comme sens incarné la réponse à ces questions, comme sens incarné. C'est-à-dire que le sens, la signification, n'est pas dit. Il est incarné dans les activités. C'est par ces activités elles-mêmes que la société implicitement révèle ce qu'elle pense d'elle-même et ce qu'elle pense du monde et des autres. C'est parce qu'elle a de fait des relations, par exemple pacifiques ou agressives avec les autres groupes, qu'on peut se dire sa réponse à qui sommes-nous par rapport aux autres est une réponse pacifique ou agressive. Elle se situe comme plutôt semblable ou comme plutôt différente par rapport aux autres, comme plutôt en rivalité ou en accord. Ce n'est pas dit, c'est dans le faire qu'on le constate. C'est dans l'activité réalisée. C'est ce faire social qui ne se laisse comprendre que comme réponse à des questions qu'il pose implicitement lui-même. L'homme est un animal inconsciemment philosophique, qui s'est posé des questions de la philosophie dans les faits, longtemps avant que la philosophie n'existe comme réflexion explicite. Donc inconsciemment philosophique parce que toutes ces questions sont des questions philosophiques. Qui suis-je, dans quelle étagère, enfin bon. Tout ça, ce sont des questions philosophiques, mais la plupart du temps, elles ne sont pas posées comme telles. Donc, elles ne sont pas posées par une réflexivité, par une réflexion sur soi-même. Mais comme elles nécessitent une réponse, c'est-à-dire comme l'homme n'agit pas simplement par instinct et spontanément, comme il doit faire des choix à tout moment, de fait, il fait des choix philosophiques. Il fait des choix qui engagent son identité. Et il est un animal poétique qui a fourni dans l'imaginaire des réponses à ces questions. Le mot poétique doit être pris au sens étymologique du poien grec, c'est-à-dire un verbe à très large champ sémantique qui signifie tout le faire, tout ce qui est faire. Pas seulement produire du matériel, mais faire une poésie, faire un rêve, faire n'importe quoi, ça s'exprime par ce mot-là. Et donc l'homme est un animal poétique parce qu'il fait, et c'est dans le faire qu'il exprime ses questions, ses réponses. Bon, donc, on peut ajouter que c'est seulement à partir du moment où ces questions deviennent explicites, justement, qu'une société commence à être autonome. Donc, on a vu la notion d'autonomie d'une société, c'est justement cette réflexivité, cette capacité de se dire explicitement cette fois et consciemment et volontairement qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous instituons pour nous-mêmes. Ça, c'était justement la définition de l'autonomie pour une société. Et c'est pourquoi Castoriadis pense que l'autonomie est apparue pour la première fois, à un moment précis de l'histoire, conjointement avec la naissance de la démocratie et de la philosophie dans les cités grecques. Parce que la philosophie, c'est justement ce questionnement qui n'accepte aucune évidence héritée, aucune habitude, mais qui les met en question et essaie de savoir toujours le pourquoi, le d'où ça vient, le est-ce que c'est justifié. Et la démocratie fait la même chose, a la même démarche, mais dans le domaine politique. La démocratie, c'est le seul régime, au sens strict du terme, pas celle qu'on prétend avoir à l'heure actuelle, au sens strict du terme, c'est le seul régime qui n'accepte aucune justification habituelle ou simplement héritée de la tradition pour justifier le pouvoir, pour justifier qui est au pouvoir. La démocratie est caractérisée par le fait qu'il n'y a aucun titre à exercer le pouvoir, aucun titre particulier. Chacun est égal en ce qui concerne la prise de décision qui concerne les affaires communes. Il n'y a aucun titre. Alors que tous les autres régimes politiques antérieurs défendaient justement un certain titre qui justifiait le type de pouvoir qu'elle développait. Bon, par exemple, le titre de la noblesse, le fait d'être héritier d'un lignage, d'un certain lignage, justifiait aussi bien la monarchie que l'aristocratie. Il y avait aussi des plutocraties, où ce qui comptait, c'était les biens matériels, et bon, des oligarchies, où, selon les cas, on justifiait le plus souvent l'accaparement du pouvoir par une certaine classe, on le justifiait par l'invocation d'une soi-disant compétence. Et c'est encore le cas actuellement. Quand on essaie de justifier l'accaparement du pouvoir par une certaine classe, c'est en vertu d'une compétence. On dit, pour exercer la politique, il faut une certaine expertise dans une série de domaines et tout le monde n'en est pas capable, on ne prend que les meilleurs. Et donc c'est là-dessus qu'est fondée l'élection. L'élection, soi-disant, ne choisit que les meilleurs, choisit l'élite de la société. Or, c'est très significatif que dans les démocraties grecques, on considérait que l'élection était un signe aristocratique, était une caractéristique d'un régime aristocratique et pas du tout d'un régime démocratique. Hein, la démocratie, c'est le seul régime qui ne donne aucune justification au fait que certains ont plus de pouvoir que d'autres et qui le refusent. Donc, voilà cette racine commune de la philosophie de la démocratie qui est favorable à l'autonomie. C'est pour cette raison-là qu'elle y est favorable. C'est parce qu'elle met tout en question. Elle n'accepte rien simplement parce que ça a été fait comme ça jusqu'à présent. Voilà, c'est une mauvaise justification pour elle. Et enfin, nous avons parcouru déjà la semaine dernière la critique que Castoriadis adressait aux explications seulement fonctionnalistes des institutions sociales, c'est-à-dire qui considèrent que toute institution répond à un certain besoin, remplit une certaine fonction, et que ça suffirait à expliquer tout ce que construit une société. On a vu que la principale objection à ce type d'explication, c'était justement qu'elle n'interrogeait pas la notion de besoin. Or, un besoin ne signifie rien universellement, ne signifie rien intemporellement, mais est toujours défini précisément par la société. Toute société définit ses besoins qui vont bien au-delà de ce qu'on peut appeler leur étayage naturel, hein, donc le fait qu'effectivement il y a des contraintes naturelles dont il faut tenir compte. Mais tous les besoins de n'importe quelle société vont bien au-delà de cette simple satisfaction du biologique. Donc il faut tenir compte de cette institution du besoin. Et en outre, l'explication fonctionnelle ne concerne que les moyens, finalement, n'explique que les moyens et pas les fins. Elle néglige complètement la notion de fin. C'est une rationalité seulement instrumentale qui est expliquée par la fonction. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà à quoi nous voulons arriver, comment allons-nous nous organiser au mieux, le plus efficacement possible pour arriver à cette visée. Mais cette visée elle-même, comment est-ce qu'on explique qu'elle a été si différente dans différentes sociétés ? Cette visée elle-même, comment est-ce qu'elle est apparue ? Pourquoi est-ce qu'on a posé ça comme fin, comme motivation ultime de la société, pour ensuite se donner les moyens les plus efficaces pour y parvenir ? Là non plus, le fonctionnalisme ne peut pas y répondre. Donc voilà pour le rappel, hein, un petit peu étoffé, de ce qui est déjà acquis de cette théorie de Castoriadis. Maintenant, voyons peut-être un autre aspect de l'imaginaire radical. Donc, je vous rappelle que l'imaginaire radical, c'est le concept que... Donc, c'est bien un concept philosophique, c'est-à-dire une notion qui a un sens différent de ce que peuvent avoir les mots, du sens que peuvent avoir les mots dans le langage courant. C'est quelque chose qui est en rapport avec une théorie complète philosophique, donc c'est vraiment un concept. Et c'est un concept qui a été forgé précisément pour nommer cette capacité de création sociale, des significations les plus fondamentales, y compris le langage qui est une signification, une institution symbolique signifiante, qui en plus sert à en créer d'autres. C'est par le langage, évidemment, qu'on peut créer toute une série d'autres institutions qui seraient absolument impossibles sans le langage. Je pense aussi bien au code juridique que à la transmission scolaire, enfin, un tas de transmissions. Et il l'appelle radical, cet imaginaire, au sens, encore une fois, étymologique du mot radical. Donc ça vient de la racine, de radix, la racine, parce que c'est un imaginaire qui est la racine, la source première de absolument toute création humaine. Il est radical en ce sens qu'il est vraiment à la racine de tout ce qui va pouvoir pousser, se développer dans une société. Il ne faut pas le confondre avec l'imaginaire effectif. L'imaginaire effectif, ce n'est pas l'opération imaginaire en train de se faire, c'est son résultat. C'est-à-dire c'est toute cette sphère imaginaire qui existe dans une société et qui est désormais là, si vous voulez, à la disposition de chacun, qui est là pour chaque être qui naît dans cette société ou qui y arrive. Donc c'est l'imaginaire comme résultat, comme produit de l'imaginaire radical. Donc l'imaginaire effectif comme produit de l'imaginaire radical. Donc il faut faire attention à cette ambiguïté du mot qui est à la fois la capacité et l'opération de produire et puis son produit, son résultat. Presque toutes, et vous verrez pourquoi je dis presque, il y a quelques exceptions, presque toutes les productions imaginaires comportent un aspect symbolique. Donc on va un peu se concentrer sur cette notion de symbolique et sur ce qu'elle apporte pour notre projet politique. Ça paraît loin au début, mais après on comprend. On voit pourquoi, on voit comment on y retourne. Bon, qu'est-ce qu'un symbole ? Un symbole, c'est un signe conventionnel ou une image ou un objet qui renvoie à autre chose que lui-même. Donc l'important, c'est ça. C'est un symbole renvoie à autre chose que lui-même. Une image est toujours un symbole. Parce qu'une image, c'est toujours l'image de quelque chose. C'est toujours l'image de quelque chose d'autre. Donc c'est toujours quelque chose qui nous renvoie à autre chose, l'image. Et vous pouvez aussi bien le considérer dans le cas d'une image figurative que dans le cas d'une image non figurative. Bon, dans le figuratif, c'est facile. Pensez au tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Hein. Voilà. Il joue évidemment avec ce double statut de l'image. Bien sûr, c'est une pipe qui est illustrée, mais en réalité, c'est l'image de la pipe que l'on voit. Donc, de l'image, on ne peut pas dire quelle est la pipe elle-même. Donc, lui, il joue évidemment avec ça. Mais toute image est comme ça. Et si vous prenez du non figuratif, le non figuratif, certes, ne copie pas un objet, donc ne renvoie pas à un objet qui serait similaire, mais le non figuratif exprime quelque chose. C'est-à-dire, toujours quand on produit une image, c'est pour exprimer quelque chose d'autre. Pensez à l'art conceptuel, carré noir sur fond blanc, ou peu importe. Si vous regardez un carré noir sur fond blanc qui a été produit comme art, comme œuvre d'art, comme image, à regarder en tant que tel, ça exprime plus que deux formes géométriques. Ça exprime beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'art conceptuel, d'ailleurs. Hein, ça vous fait penser à des concepts. Je veux dire, c'est censé évoquer en vous autre chose que simplement ces carrés, ces formes visuelles. Enfin, c'est pas que du visuel, voilà. Donc, toujours une image renvoie à autre chose qu'elle-même. En ce sens, elle est toujours un symbole. Renvoie à autre chose qu'elle-même. Ça peut aussi être un objet. Il y a des tas d'objets qui sont en fait des symboles d'autre chose. La croix chrétienne, c'est le symbole, bien sûr, de la crucifixion et de toute l'histoire du Christ. C'est un symbole, ça renvoie à autre chose. Quand on voit une croix, il est impossible de ne pas penser à ce symbole, même si on n'est pas croyant. On est dans une culture qui, voilà, quand on voit une croix, on sait que ça renvoie à ça. Plus les symboles sont conventionnels, plus aussi ils sont explicites et transparent, très facilement reconnaissable, très facilement identifiable par tout le monde. Je prends un exemple d'institution symbolique extrêmement transparente et conventionnelle, c'est les panneaux d'indication routière. Les panneaux d'indication routière, c'est vraiment, ça a été vraiment décidé par convention. On s'est mis, alors contrairement à la plupart des institutions sociales, on ne se met jamais ensemble pour décider comment on va appeler ça, comment on va appeler ça ou comment on va s'organiser. Non, là... Effectivement, il y a eu une assemblée chargée, une instance chargée de décider de cette symbolique. Et on a établi les symboles, non pas de manière représentative, parce que si vous prenez le... Si vous prenez le panneau rouge avec une bande blanche, ça ne représente pas une situation où il y a une rue où vous n'avez pas accès, à laquelle vous n'avez pas le droit d'accéder. Ça ne représente pas ça. Mais vous le savez. Vous le savez que ce symbole renvoie à un sens interdit. Et ça a été fixé conventionnellement. Il n'y a aucune ambiguïté dans le terme, il n'y a aucune ambiguïté dans le signe. On sait très bien que tout le monde le sait. Et on ne peut pas se tromper. Il n'est pas équivoque, il ne signifie pas aussi une chose et une autre. Il n'y a pas moyen de faire un usage métaphorique de ce symbole, hein, alors que, enfin si, après on peut jouer dessus, mais ça c'est un autre développement. Alors que si vous comparez ça par exemple avec le langage spontané, les langues telles qu'elles se sont développées de manière non concertée, disons, les langues sont très équivoques. Il y a beaucoup de mots qui n'ont pas juste une univocité, beaucoup de mots qui se comprennent différemment selon les personnes ou selon les contextes. Bon, on reviendra à toute cette institution de la langue, parce que c'est quelque chose d'important pour Castoriadis, mais en tout cas, on peut dire que plus une institution symbolique est conventionnelle, donc plus on a décidé consciemment de l'établir comme ça, plus aussi elle est transparente, et donc vous n'aurez pas, elle est peu susceptible d'installer une aliénation. Je veux dire, on dit pas qu'on est aliéné au sens interdit. Hein. Je veux dire, le sens interdit, on comprend bien sa fonction, on sait qu'il exerce convenablement sa fonction, et on ne s'estime pas, comment dire, spolié de sa propre interprétation de la circulation routière, parce qu'on est obligé de respecter le sens interdit. Donc, Voilà, ça c'est un exemple d'institution symbolique qui permet peut-être d'illustrer aussi les autres et de comprendre pourquoi les autres sont beaucoup plus complexes, parce que justement elles n'ont pas été formées comme ça. En tout cas, pour pouvoir produire et aussi pour pouvoir comprendre des symboles, il faut, dit Castoriadis, avoir la capacité de voir dans une chose ce qu'elle n'est pas, la voir autre qu'elle n'est. Et oui, ceci, si vous le voyez tel qu'il est, ça ne vous dit rien du tout, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Il faut le voir tel qu'il n'est pas, il faut le voir autre qu'il est, il faut voir ce à quoi il renvoie, il faut le voir autre qu'il n'est. Donc cette capacité n'est pas donnée dans la sensation directement. Ce n'est pas la faculté perceptive qui vous permet de voir à quoi ça renvoie. Et ce n'est pas non plus la pensée ou la capacité rationnelle, parce que ce n'est pas particulièrement rationnel que le sens interdit soit exprimé par ça. Il pourrait parfaitement être exprimé par autre chose. C'est totalement arbitraire qu'on ait choisi ce signe-là. Ce n'est pas particulièrement plus rationnel que si on avait choisi un autre signe. Donc ce n'est pas non plus par la capacité de penser, de logique que vous pouvez appréhender le fait que ceci renvoie à autre chose. C'est justement par cette capacité qui est autre, qui est la capacité imaginaire. Cette capacité imaginaire, c'est elle qui nous permet de saisir des symboles, c'est-à-dire de voir une chose autrement qu'elle n'est. Et on voit bien pourquoi c'est l'imaginaire. L'imaginaire vous permet de voir quelque chose qui n'est pas là. Vous imaginez une chose en son absence. C'est bien l'imagination qui permet de faire ça. Ou vous pouvez imaginer une chose qui n'existe pas du tout. C'est bien l'imagination qui permet de faire ça et aucune autre faculté. Donc voilà pourquoi le symbolique est toujours lié à l'imaginaire, et réciproquement. Bon, il y a une étude générale des systèmes symboliques qui s'appelle la sémiologie, qui étudie tous les signes en tant que tels. Mais plus particulièrement, ce qu'on connaît le mieux et ce qu'on a le plus étudié comme système symbolique, c'est la langue, avec la linguistique, et ce sont les mythes, avec donc l'ethnologie ou l'anthropologie qui s'est penchée sur les mythes en essayant d'en établir la structure, en essayant de découvrir leur logique, leur structure, et le fondateur de l'anthropologie structuraliste, vous connaissez certainement, c'est Claude Lévi-Strauss, je vais en reparler un petit peu plus loin, mais d'abord, bon, tout part de toute cette compréhension structurelle des institutions part de la linguistique et des travaux de Ferdinand de Saussure. Saussure, qui publie en 1916 la théorie générale, non pardon, le cours de linguistique générale. Ferdinand de Saussure établit une théorie du signe linguistique qui est toujours en vigueur, qui est devenue maintenant complètement banale, adoptée par tout le monde, et qui permet de comprendre la relation entre le mot, la signification et la chose. Donc c'est la théorie du signe linguistique, linguistique j'insiste, comme une combinaison indissociable d'un signifiant et d'un signifié. Le signifiant, c'est le signe dans sa matérialité, le signe comme instrument, simplement comme instrument d'une expression. Dans un langage, c'est soit un son, quand c'est le langage oral, ou bien un mot graphique dans le langage écrit, et peu importe que ce graphe soit une lettre, un mot ou un idéogramme, peu importe, c'est une unité de langage écrit. Donc ça, c'est le signifiant, c'est simplement la matérialité, l'instrument qui porte la signification. Et le signifié, c'est la signification. Donc c'est le sens qu'on donne à ce signe. Le signe, c'est l'ensemble des deux. Donc le signe comporte à la fois sa trace sonore ou écrite, perceptible, et la signification qui est mise conventionnellement. Alors le mot conventionnellement est important parce que c'est aussi Saussure qui a établi, et tout le monde l'a admis, qu'il y a un arbitraire du signe. Un arbitraire du signe. Alors arbitraire ne veut pas dire que c'est un arbitraire individuel, ni qu'il est à la disposition d'une société de changer constamment son langage. Ce n'est pas arbitraire à ce point-là. Je veux dire, il est certain que si le langage changeait tous les jours, il n'y aurait plus de fonction du langage, il n'y aurait plus moyen de s'entendre, ce serait impossible. Si tous les jours on devait se dire comment est-ce qu'on a convenu qu'aujourd'hui on appelait ça ou ça, la fonction du langage s'arrêterait. Donc c'est évident que ce n'est pas arbitraire à ce point-là, mais il est certain aussi que quand on... Voilà, chaque société a établi sa propre langue de manière assez spontanée, mais assez mystérieuse, il faut bien le reconnaître. Hein, on ne sait pas comment ça s'est passé au début exactement, mais elle l'a établi en sélectionnant une série de sons et de graphismes possibles, dans une quantité, pour ainsi dire, illimitée de sons et de graphismes possibles. Il n'y a qu'à voir déjà combien de langues existent et combien il pourrait en exister d'autres si on prenait d'autres sons, d'autres signes pour les composer. On pourrait inventer des milliers de langues en plus de celles qui existent. Donc c'est en ça qu'il y a un arbitraire du signe. Peu importe, en fin de compte, que cette signification de table, quand je veux dire table, peu importe que j'utilise les lettres et les sons table, ça n'a aucune importance, ça aurait pu être tout autre chose. C'est en ça qu'il y a l'arbitraire. Mais, alors, ce signe renvoie en plus, en dehors du langage, en dehors de la... comme c'est un signe, il renvoie sur quelque chose, hein, comme j'ai dit, et il renvoie en plus à quoi ? À ce qu'on appelle un référent. Donc c'est parce que c'est une relation de référence à, hein, le signe réfère à quelque chose. Et à quoi, qu'est-ce que ça peut être ce référent ? Ben, ce référent peut être de divers types. Le cas le plus simple, c'est que le référent, c'est un objet du réel extérieur. J'utilise ici réel extérieur dans un sens banal, hein, sans interroger la question est-ce que le réel existe vraiment ? Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que tout n'est pas une invention domestique ? Je laisse tomber tous les scepticismes philosophiques qui se sont ajoutés à cette question, mais juste, bon, prenons-le au sens banal. Je disais table, voilà, c'est pour le mot et sa signification renvoie à une table qui existe vraiment, un objet extérieur qui existe. Bon, donc le référent peut être ou bien un objet du réel extérieur, il peut être aussi non plus un objet matériel, mais quelque chose qui quand même est identifiable à l'extérieur du langage et qui dépend d'une certaine manière des objets matériels. Je veux dire, par exemple, une émotion. Hein, c'est aussi du perçu, c'est aussi percevable par les sens, simplement par l'expérience sensorielle. La colère, par exemple, elle a un signifiant, hein, le mot, elle a un signifié, on peut expliquer ce que c'est, et elle a un référent parce qu'il y a effectivement des colères qui existent dans le monde. Voilà, c'est son référent. Donc ça peut être, disons, sentiments, etc. Toutes sortes de choses qui ne sont pas matérielles, mais enfin, dont on perçoit le phénomène dans le monde. Et enfin, le référent, ça peut être une fiction. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelque chose qui est totalement inventé, dont on sait que ça n'existe pas, lui donner un mot, lui donner une signification. Castoriadis prend l'exemple du centaure, c'est des exemples qui sont devenus classiques, comme la licorne, etc. Bon, des choses dont on sait que ça n'existe pas, qu'on a inventé, comme les contes de fées, mais qui ont un signifiant, le mot, un signifié, parce qu'on peut très bien expliquer ce que c'est, hein, c'est un animal qui est composé d'un corps de cheval, d'un buste et une tête d'homme. Bon, on peut expliquer des tas de choses à son propos, mais il n'a pas de référent dans le réel, hein, ni en tant qu'objet, ni en tant que caractéristique quelconque non matérielle des objets. Il n'a pas de référent, même s'il est vrai que, parce qu'on pourrait m'objecter la chose, même s'il est vrai qu'il est composé à partir d'objets réels, c'est-à-dire à partir d'un cheval et d'un homme, on a mis ça ensemble et on a fait un être fictif. Bon, souvent, les fictions ont quand même un certain trouble matériel dans le perçu. Après, elles en font ce qu'elles veulent. Donc, c'est un référent. Il y a pourtant un référent qui est la fiction elle-même. C'est-à-dire, quand je parle de centaure, je me réfère à quoi ? Je me réfère à ce que un peuple, à un certain moment, a inventé. Je me réfère à ce que les Grecs entendaient par le mot centaure. Et donc, ça va au-delà de la signification. Parce qu'on pourrait débattre de la signification, on pourrait ne pas être d'accord. Quelqu'un pourrait dire le centaure a quatre pattes et pas de bras. Moi, je ne dirais pas du tout, il a deux bras. Et on pourrait discuter. Et il y aurait moyen de trancher. Il y aurait moyen de trancher parce qu'on pourrait se référer, justement, au centaure tel que les concevaient les Grecs, tel qu'ils l'ont inventé. Ils ont fait une fiction qui était précise. Il avait quatre pattes et deux bras. Donc, voilà, il y a un référent hors du langage qui permet éventuellement de vérifier si la signification qu'on donne est exacte. Alors, troisième chose qu'a introduite Saussure, et qui a eu beaucoup d'influence sur plusieurs disciplines en sciences humaines au XXe siècle, c'est l'idée que les institutions symboliques forment un système. C'est-à-dire que vous parliez d'un langage ou d'une autre institution symbolique, c'est un ensemble de signes qui forment système. C'est-à-dire que chacun ne prend son sens que par différenciation d'avec tous les autres. C'est-à-dire qu'un système, c'est quelque chose qui fonctionne par synergie. Il y a des renvois de l'un à l'autre. Chacun n'est pas isolé. Vous n'avez pas une fonction signifiante, une somme de fonctions signifiantes. On a l'impression au premier abord que oui, parce qu'on a des éléments de ce système. Par exemple, les mots sont des éléments du langage, et on peut dire que chacun signifie quelque chose en propre, d'accord. Mais ils ne forment une langue que parce qu'ils ont des renvois les uns par rapport aux autres. Et ils ne prennent souvent leur sens que dans le contexte qui est donné par tous les autres mots. Un mot peut avoir des sens extrêmement différents selon la phrase dans laquelle il est, ou selon sa position dans la phrase, ou selon ce à quoi il est opposé, etc. etc. Donc c'est un véritable système au sens où les relations sont aussi importantes que les éléments. Les relations sont aussi importantes que les éléments. Et ça, ça a eu beaucoup d'influence sur l'étude des mythes par l'anthropologie structuraliste. L'anthropologie structuraliste a aussi proposé une réponse à la question de comment s'organise une société, comment sont décidées les institutions d'une société. Donc, une réponse à la question que pose aussi Castoriadis. Et cette réponse a consisté à comparer l'ensemble des mythes que se donne un certain groupe humain, une certaine communauté, une certaine ethnie, avec les mythes que s'en donnent d'autres. Donc comparer des mythes qui viennent d'un peu partout dans différentes cultures. Alors d'abord, pour comprendre la logique interne du mythe de chacun, la logique interne des différents mythes d'un même peuple, et ensuite voir s'il existe des structures universelles qui sont reflétées par tous les mythes humains. Exemple de structure universelle qu'ils ont trouvée, hein, c'est, enfin en tout cas qui pensent avoir trouvé, c'est les structures élémentaires de la parenté. Hein, c'est un des ouvrages fondateurs vraiment de Lévi-Strauss. Les structures élémentaires de la parenté, il y a de très nombreuses variantes dans les systèmes de parenté. Il y a de très nombreuses différences entre, par exemple, les formes d'alliance qui sont acceptées, les formes d'alliance qui ne sont pas acceptées, entre les membres de la famille avec lesquels on peut se reproduire, se marier et se reproduire, ou on ne peut pas. Mais toutes ces formes, en fait, ont un noyau commun. Et ce noyau commun, on peut dire voilà, que ça forme une structure universelle de la parenté. Un autre aspect des mythes qui a été mis en valeur, donc qui exprime leur logique propre, est illustré par le titre d'un autre ouvrage de Lévi-Strauss, qui est « Le cru et le cuit ». Le cru et le cuit, c'est un des couples d'opposés que les mythes utilisent énormément. Ils utilisent énormément ce genre de couple, et en fait, ces oppositions, d'après le structuralisme, renvoient à une opposition première, primordiale pour tout groupe humain, qui est l'opposition nature-culture. Cru-cuit, hein, c'est l'opposition nature-culture. Ce qui est caractéristique de la culture, caractéristique de la culture humaine, culture c'est humain, c'est le fait de cuire ses aliments. Et cette opposition est fondamentale parce que c'est vraiment qui sommes-nous et que sont les autres, hein. Qui sommes-nous et qu'est-ce que le reste du monde, ce qui n'est pas nous. Donc c'est vraiment une question identitaire, définir ça. Donc il montre comment la logique du mythe, par différents types d'oppositions qui peuvent paraître très anecdotiques, hein, vraiment des détails de la vie, en fait renvoie toutes à une question première qui est l'identité et la différence. Pourquoi est-ce qu'on disait tout ça? Parce que cette explication donc, structurelle des mythes qui s'inspire de la structure du langage, elle a été elle aussi contestée par Castoriadis pour des raisons différentes de sa critique du fonctionnalisme, et même on pourrait dire pour des raisons inverses. Autant le fonctionnalisme ne s'occupait pas assez du symbolique parce qu'il était tout concentré sur l'efficacité, hein, et le concret et le besoin, autant l'explication structuraliste donne beaucoup trop grande part au symbolique et à l'arbitraire. Et Castoriadis pense que cette explication néglige trop l'importance du référent, justement. Alors, un exemple. C'est page 206. Lorsqu'une tribu pose deux clans comme homologues au couple faucon-corneille, donc il s'agit ici d'un système totémique où on a des clans qui ont un animal totem. Donc lorsqu'une tribu pose deux clans comme homologues au couple faucon-corneille, la question de savoir pourquoi ce couple a été choisi parmi tous ceux qui pourraient connoter une différence dans la parenté. Donc on a choisi deux oiseaux qui ont une certaine parenté et certaines différences. Pourquoi on a choisi ceux-là ? Donc la question de savoir pourquoi ce couple a été choisi parmi tous les autres surgit aussitôt. Et d'après Castoriadis, cette différenciation symbolique entre faucon et corneille repose... elle a un étayage naturel, pour parler selon son concept. Elle repose sur des caractères réels observés chez chacun de ces oiseaux. Ce n'est pas par hasard si une tribu a choisi ça comme différenciation. Il y a un rapport à son environnement réel. Il y a des caractères réellement observés. Ça n'est pas pris en compte par le structuralisme, puisqu'il n'interprète le système de signes que dans son fonctionnement interne, dans ses rapports, dans ses relations internes, sans du tout se soucier du rapport à ses références extérieures. Et d'autre part, plus grave, plus important, une étude d'un système symbolique donc dans ses relations internes ne tient pas compte de la manière dont ce système a été élaboré, c'est-à-dire de son historicité. On prend le système dans un moment synchronique, en synchronie, c'est-à-dire à un moment donné, indépendamment de son évolution. Or, nous savons pertinemment que toutes les sociétés et toutes les représentations qu'elles se sont données et toutes les histoires qu'elles se racontent ont eu une évolution et continuent à en avoir, même si elles le nient. Donc c'est vrai qu'il y a des sociétés qui nient totalement leur historicité. Et justement, le fait de se transmettre oralement toujours les mêmes histoires en prenant soin de n'oublier aucun détail, en prenant soin de ne rien modifier, est une forme de négation de son historicité, est une forme une façon de dire « nous ne changeons pas, depuis que nous existons, nous n'avons pas changé ». Mais c'est faux, nous savons que c'est faux. Et on le sait par toute une série de méthodes d'investigation, de manière très simple, par le fait qu'il y a beaucoup de variantes dans ces mythes. C'est-à-dire que on a des versions différentes du même mythe qui, évidemment, sont surgies avec le temps. Voilà, il y a, malgré tous les soins qu'on prend à répéter toujours les mêmes choses, il y a des variantes qui apparaissent. Donc, de toute façon, ces mythes, ils sont apparus à un certain moment. Et d'après Castoriadis, c'est ça la question. C'est ça le mystère qu'on doit essayer de résoudre. C'est comment est-ce qu'ils sont apparus dans une société. Le fait de dire qu'effectivement, il y a un parallèle structurel entre le mythe et l'activité sociale, c'est intéressant de le savoir qu'il y a un parallèle, qu'il y a une justification par le mythe de l'activité sociale, bien sûr. Mais comment c'est venu, comment ça a été élaboré, ils n'en disent rien. Donc c'est ça l'insuffisance de ce type de réponse. Néanmoins, l'interprétation structuraliste a ceci d'intéressant qu'elle montre la tendance importante pour la question de l'aliénation. Elle montre la tendance de tout système symbolique à s'autonomiser. Et ici, quand on emploie le mot « autonomiser », il est péjoratif. Ce n'est pas l'autonomie dans un bon sens, au contraire. Quand un système symbolique s'autonomise, ça veut dire qu'il se coupe justement de son origine et de son intention première. Ça veut dire que ses fondateurs en perdent la maîtrise. Ils ont institué un système pour certaines raisons, avec certaines motivations, plus ou moins, tout en sachant bien qu'il y avait aussi des contraintes et que tout n'était pas conscient, mais tout de même. Et puis, à un moment, le système, ils l'ont institué de manière bien compréhensible pour qu'il se maintienne, pour qu'il dure. On n'institue jamais un système, une organisation, une structure pour qu'elle disparaisse. Donc, bien sûr, on veut qu'elle dure. Et comme on veut qu'elle dure, on lui donne en même temps un certain pouvoir de contrainte, un certain pouvoir de se faire respecter. Et ça peut être un pouvoir de type, comme dans les sociétés modernes, une coercition officielle, par le droit positif et tout le système qui est censé le faire respecter. Mais ça peut être aussi, de manière sans doute plus ancienne et plus répandue, simplement la force de la coutume. La force de la coutume, le fait que la coutume soit quelque chose qui, par pression sociale, se perpétue à l'identique. Le fait qu'on n'ait pas le droit de faire autre chose que les coutumes. Le fait qu'un individu qui voudrait affirmer une singularité par rapport au groupe serait réprimé par le groupe. On l'en empêcherait. Donc ça, c'est plus le cas, évidemment, dans les sociétés non divisées. Enfin, les sociétés homogènes, c'est une pression générale du groupe pour qu'on continue à faire les choses toujours de la même façon et qu'on n'introduise ni nouveauté ni particularité individuelle. Bon, c'est un peu les termes extrêmes. Hein, c'est un peu les. Bon, il y a toujours des marges, il y a toujours moyen de jouer sur. Toujours une possibilité pour l'individu de jouer avec les obligations sociales. Mais enfin, voilà, ça, ce sont les grandes tendances. Les tendances de l'institution, ce sont des tendances à s'autonomiser. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien arriver que, à un moment, les circonstances extérieures ayant changé ou les circonstances culturelles ayant changé, l'institution devienne obsolète. C'est-à-dire qu'elle devienne vraiment un frein. Alors qu'au départ, elle a été élaborée pour favoriser la vie de la société, à un moment, elle en devient un frein. C'est parfaitement, ça arrive souvent. On peut dire, les mœurs évoluent, ou bien l'environnement se modifie, il faut changer son mode de vie en conséquence. L'institution impose un frein à ça. C'est difficile de la changer. Alors, c'est difficile de la changer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le fondateur a pensé à bien la cadenasser, hein, pour dire, bon, parce que justement, il voulait qu'elle dure. Mais aussi parce que très souvent, on oublie qu'on l'a instauré. C'est là toute l'importance, évidemment, de la notion d'hétéronomie. On oublie qu'on l'a instauré soi-même et que, par conséquent, on peut la changer soi-même. On l'oublie soit volontairement, soit involontairement. Donc, je l'ai dit, il y a des sociétés qui nient leur propre caractère fondateur et leur propre histoire. Donc, à ce moment-là, le système symbolique s'autonomise et devient aliénant pour les individus. Pourquoi il est aliénant pour les individus ? Parce que l'individu a affaire désormais à un discours de l'autre non su comme tel, ce qui était la définition du discours aliénant. Un discours de l'autre non su comme tel, puisque il n'a plus l'autonomisation de l'institution fait que les individus n'ont plus la possibilité ou même la conscience qu'ils peuvent la modifier. Donc c'est comme si c'était une nécessité, une contrainte extérieure, extérieure à eux, extérieure à leur pouvoir. Donc c'est bien une aliénation. Et c'est une aliénation aussi pour la société tout entière, parce qu'elle est devenue désormais hétéronome. Elle est devenue hétéronome, c'est-à-dire elle n'a plus conscience que c'est elle qui a instauré et que c'est elle qui peut modifier cette institution. Alors, l'autonomisation d'un symbole, c'est-à-dire donc le fait qu'il se mette à dominer son utilisateur et non plus à être à son service, est d'autant plus difficile à éviter que le référent est fictif. Parce que si le référent, ici on parle d'un symbole au sens plus basique du terme, par exemple un élément d'un code, hein, un code logique, un code mathématique, ce sont aussi des éléments symboliques, hein, d'un système symbolique, bon. Ou un mot d'une langue. Lorsque son référent est un objet réel ou quelque chose qui est du moins observable dans le réel, eh bien, il est assez difficile qu'il prenne totalement la maîtrise sur, que le signe prenne totalement la maîtrise sur sur les raisons pour lesquelles les fondateurs l'ont instauré. Il y a peu de chance. Pourquoi ? Ben parce que, par exemple, si les choses ayant évolué, on ne considère plus de la même façon des objets de la vie courante, des objets du monde courant, du monde quotidien, on va se permettre de changer la signification des termes qui les désignent. Si on ne les voit plus de la même façon, on va modifier la signification des termes et on pourra le faire librement puisque les objets seront là. On pourra dire, voyez, ils ont changé. On pourra justifier, les choses ont changé, il faut les appeler désormais autrement. Mais si le référent est une fiction, alors là, on a deux cas différents. Ou bien cette fiction est connue comme fiction, est reconnue comme fiction. C'est par exemple pour nous le cas du centaure ou de la licorne ou des fées. C'est parfaitement reconnu comme fiction. Donc si on décide de changer maintenant ce qu'on entend par centaure, on se donne le droit de le faire puisque c'est une fiction, ça nous est indifférent, ça ne nous maîtrise pas. C'est vrai qu'il y a eu les fondateurs, mais nous nous permettons de ne pas être dominés par le sens qu'a pris le mot centaure. Alors, on en vient maintenant à la question importante, où est-ce que ça devient vraiment aliénant ? C'est quand le référent d'un mot et d'une signification est une fiction, mais n'est pas reconnu comme telle. Et ça, alors typiquement, là, Castoriadis revient avec l'exemple de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il prend assez souvent l'exemple de Dieu ? C'est bien parce que, bon, d'une part, c'est un phénomène qu'on peut assez bien comprendre, et d'autre part, c'est un phénomène qui n'est pas anodin, mais qui a d'énormes influences sur beaucoup de sociétés encore, et même encore sur la nôtre, par beaucoup d'aspects. Donc ce n'est pas pour rien qu'il choisit cet exemple-là. Ce n'est pas par acharnement athée, voilà. Bon, il y a des raisons. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Dieu ? Quels que soient les points d'appui, ici je fais une citation que vous pourrez retrouver page 211. Quels que soient les points d'appui que sa représentation prenne dans le perçu. Donc il a des points d'appui dans le perçu, des points d'appui. Le référent n'est pas du perçu, il n'est pas dans le réel perçu, mais il a des points d'appui dans ce perçu, c'est-à-dire qu'il est inspiré, par exemple, donc on parle ici de la signification Dieu, hein. Elle est d'une certaine manière inspirée par certaines choses qu'on observe dans la nature, par exemple, on peut dire qu'elle est influencée par les forces de la nature, par la question de d'où a surgi l'univers, donc par des choses qui sont observables. Hein, on peut dire qu'il y a un point d'appui là. Par le fait aussi que dans certaines civilisations, les dieux ont des formes animales, hein, donc bien sûr là, il y a des points d'appui dans le réel perçu. Quel que soit son efficace rationnel, comme principe d'organisation du monde pour certaines cultures. Donc, souvent aussi, Dieu a une efficacité rationnelle comme principe d'organisation du monde. Bien sûr, Dieu, par exemple, c'est la réponse très fréquente de la question de l'origine de l'univers ou de l'origine des hommes. Pourquoi le monde est-il comme il est ? C'est parce que c'est son créateur hein, qui l'a fait comme ça. Pourquoi sommes-nous comme nous sommes ? C'est notre créateur qui nous a fait comme nous sommes. Donc, c'est très efficace rationnellement. Ça permet de construire tout un discours théologique rationnel. Mais quel que soit ça, Dieu n'est ni une signification du réel, parce que ce n'est pas un signe d'un objet réel qu'on aurait constaté et qu'on aurait dû nommer. On n'a jamais constaté le fait, hein, l'objet, avant de le nommer. Donc, ce n'est ni une signification du réel, ni une signification de rationnel, donc ce n'est pas non plus une signification que la pensée a forgée pour connaître quelque chose, et ce n'est pas non plus un symbole d'autre chose. Dieu n'est pas non plus un symbole qui renvoie à autre chose. Quand on dit Dieu, on ne renvoie pas à autre chose que lui-même. On désigne, c'est bien lui qu'on désigne par là, lui et rien d'autre. Mais qu'est-ce que c'est ce lui ? C'est très mystérieux. On ne met quasiment rien dedans, on pourrait presque dire... Mais Kassoriadisme n'utilise pas le terme, on pourrait presque dire qu'il est vide, c'est un mot vide. Bon, alors il a une signification, hein. Il a des définitions même multiples, mais il ne renvoie à rien. Donc, qu'est-ce que Dieu ? Je poursuis cette citation. Qu'est-ce que Dieu ? Entre parenthèses, non comme concept de théologien, ni comme idée de philosophe. Donc, on ne va pas s'interroger sur Dieu pour essayer de le définir selon différentes théologies, ou pour le définir à la manière des philosophes déistes, hein, par exemple comme a pu établir le divin, comme le divin a pu être établi par Platon, Descartes, Spinoza, hein, qui avait une conception philosophique du Dieu, c'est-à-dire extrêmement rationaliste, hein, destinée à débarrasser de toutes les fioritures des cultes et des religions, et de l'historicité, et pour en faire en fait une sorte de personnification d'un concept, par exemple concept d'infini, d'éternel, de puissance absolue, enfin... comme est le dieu des philosophes. Donc ce n'est pas de cette manière-là qu'on va l'interroger ici. On l'interroge comment ? On l'interroge comme institution. Donc ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il est pour ceux qui ont adopté cette représentation ? Qu'est-ce qu'il représente pour eux ? Donc, mais pour nous, qui pensons ce qu'il est pour ceux qui croient en Dieu ? Qu'est-ce que Dieu pour ceux qui croient en Dieu ? Et pourquoi ils ont adopté cette croyance ? Ils ne peuvent l'évoquer, les croyants, ils ne peuvent s'y référer qu'à l'aide de symboles. Ne serait-ce que le nom, et le nom, il le met avec un grand N, avec un N majuscule, pour évoquer évidemment la toute-puissance du nom de Dieu, presque sa sacralisation dans certaines religions. Mais pour eux, et pour nous qui considérons ce phénomène historique constitué par Dieu et ceux qui croient en Dieu, il dépasse indéfiniment ce nom. Il est autre chose. Hein ? Dieu n'est pas seulement un nom, il n'est pas seulement ce qu'on peut en dire dans les religions, il est autre chose. Dieu n'est ni le nom de Dieu, ni les images qu'un peuple peut s'en donner, qui est déjà beaucoup, hein, c'est pas encore ça, ni rien de similaire. Il est porté, indiqué par tous ces symboles, toutes les images, toutes les représentations, tous les discours qu'on fait sur Dieu dans toutes les religions. Il est porté par tout ça, indiqué par tout ça. Il est dans chaque religion, ce qui fait de ces symboles des symboles religieux. Il est ce qui fait de ces symboles des symboles religieux. Pourquoi ? Parce que vous pourriez parfaitement reprendre toutes les différentes attributions qu'on donne à Dieu dans différentes religions. Par exemple, le fait que c'est le Créateur, qu'il est le seul être infini ou éternel, qu'il est le seul être parfait. Vous pourriez reprendre tous ces symboles, toutes ces significations attribuées à Dieu, et les attribuer à autre chose. Vous pourriez dire que c'est l'univers qui est éternel et infini. Vous pourriez dire que le créateur de l'univers est le Big Bang, etc., etc. Donc, ce qui fait que ces symboles-là deviennent des symboles religieux, symboles au sens des significations, des croyances, que ça devient des symboles religieux, c'est Dieu lui-même, c'est qu'ils sont rapportés à Dieu. Or, Dieu, on ne sait toujours pas ce qu'il veut dire. Si on enlève tous ces attributs qu'on lui donne, il ne reste toujours rien. Donc, il n'existe que parce qu'on lui donne toutes ces attributions. Ces attributions, on peut les donner à d'autres choses, donc elles ne sont pas propres à lui. Et pourtant, une fois qu'on les donne à lui, elles prennent un tout autre sens. Elles deviennent des significations religieuses. Elles permettent de bâtir des énormes constructions qui sont les églises et, tout ce qui s'ensuit, les morales, les droits théocratiques, à partir de... juste pour ça. Parce qu'on a attribué à une chose dont on ne sait pas ce qu'elle est, on lui a attribué des tas de significations. Et c'est pourquoi, je poursuis la citation, c'est pourquoi il est une signification centrale. C'est une signification centrale. Donc, au centre de tout ce système de signification qu'on lui attribue, il est la signification centrale. Une organisation en système de signifiants et signifiés, c'est lui qui organise tout le système des signifiants et signifiés qui tourne autour. Ce qui soutient l'unité croisée des uns et des autres, ce qui en permet aussi l'extension, la multiplication, la modification. À partir du moment où vous avez ces quelques attributs du divin, vous pouvez ensuite multiplier le discours à l'infini sur le divin. Vous pouvez en dire des tas de choses. Alors, cette fois-ci, abandonnons le dieu chrétien, mais prenons les dieux grecs. Vous imaginez la somme de mythologie qu'on a pu accumuler, et on peut toujours en rajouter. On peut toujours rajouter une aventure de Zeus, une anecdote liée à Athéna. On peut en rajouter autant qu'on veut. Et c'est toujours effectif sur une signification centrale, qui, elle, ne bouge pas. Donc, et cette signification, dernière phrase de cette citation, et cette signification qui n'est ni d'un perçu réel, ni d'un pensé rationnel, c'est pas du scientifique, est une signification imaginaire. C'est une signification imaginaire. Contrairement donc à tous les autres éléments d'un système symbolique, qui tous renvoient à des référents soit extérieur, soit renvoie à d'autres éléments du système, qu'on a vu dans le structuralisme, se renvoient entre eux. La signification centrale, c'est pas toujours Dieu, ça peut être d'autres choses, on en verra d'autres. La signification centrale n'est plus un symbole, puisqu'elle ne renvoie plus à rien d'autre. Elle n'est plus un symbole. Elle est le centre du système symbolique, mais elle n'est plus elle-même un symbole. Dans la mesure, évidemment, où on ne reconnaît pas qu'elle renvoie à une fiction. Si elle renvoie à une fiction, alors elle n'est pas, alors elle reste un symbole. Le centaure reste un symbole de quelque chose, mais pas Dieu. Cependant, cette signification centrale, elle a d'énormes implications réelles. Elle a d'énormes effets concrets. Voilà, comme on l'a cité, tous les effets que peuvent avoir la croyance en Dieu. Castoriadis introduit alors une comparaison avec la psychanalyse et avec ce que serait une signification centrale dans l'inconscient individuel. La psychanalyse révèle l'existence, c'est lui qui le dit, moi je ne l'ai pas vérifié, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais bon, lui en tant que praticien, il a, et en tant bien sûr que théoricien aussi de la psychanalyse, il a constaté ça, que dans les inconscients individuels, on peut remonter à un fantasme ultime, à un fantasme premier, un fantasme central, qui n'est le symbole de rien d'autre. Alors que les autres fantasmes d'un individu, qui se révèlent dans les rêves, dans l'expression des désirs, dans divers matériaux qu'utilise la psychanalyse, renvoient en général à quelque chose de plus profond. Ils révèlent quelque chose de plus profond, que ce soit problématique ou pas. Mais il y a un fantasme ultime dans l'inconscient de chaque individu qui ne renvoie plus à rien d'autre, qui ne représente rien lui-même, mais qui est la condition de toute représentation par ce sujet, par cet inconscient, qui constitue donc son schéma organisateur. Il y a quelque chose qui organise l'inconscient de l'individu, pour autant que quand même que cet inconscient soit organisé, hein, ce qui est assez, de manière assez limitée, et qui représente tous ces, qui organise tous ces autres fantasmes. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant cette comparaison? C'est parce que ce fantasme fondamental ne peut pas être saisi directement. On ne peut pas le saisir, lui. On ne peut pas l'identifier, on ne peut pas dire ce qu'il est. Mais en revanche, on peut le reconstituer par ses effets. On peut le reconstituer par toutes les manifestations qui se donnent justement dans les fantasmes qui deviennent conscients. Fantasmes qui sont, quand on prend conscience de quelque chose de soi, par exemple dans les rêves, ça révèle d'une certaine manière ce fantasme qui lui n'est jamais saisi. Et la même chose se passe au niveau social. Alors là, il faut prendre une série de précautions parce qu'on ne peut pas simplement dire que... il y aurait un inconscient collectif, social, hein, qui serait parallèle à l'inconscient individuel. C'est quelque chose que Castoriadis refuse explicitement. Il n'y a pas d'inconscient collectif. Et le social, l'institution imaginaire sociale ne fonctionne pas comme un inconscient individuel. Mais moyennant ces précautions, hein, le fait que l'analogie est limitée, moyennant ça, ce qu'on peut comparer, c'est le fait de remonter à cette signification. Comment remonter à cette signification première, centrale? Et là aussi, je fais une petite citation. Lorsqu'il s'agit de la société... entre parenthèses, qu'il n'est évidemment pas question de transformer en sujet, ni au propre, ni métaphoriquement, nous rencontrons cette difficulté à un degré redoublé, donc la difficulté de saisir la signification centrale. Car nous avons bien ici, à partir de l'imaginaire qui foisonne immédiatement à la surface de la vie sociale, donc il y a tout un imaginaire à la surface de la vie sociale, notre vie quotidienne est constamment emplie de l'imaginaire social, puisque... l'imaginaire est pris dans son sens le plus large ici, c'est-à-dire que chaque fois que nous sortons dans la rue est une institution sociale. Hein, nous allons au travail, le travail est une institution sociale, etc., etc. La surface de la vie sociale est un foisonnement d'imaginaire. Imaginaire au sens de l'effectif, hein, du résultat, du produit, d'une création. Donc, à partir de ce foisonnement-là, la possibilité de pénétrer dans le labyrinthe de la symbolisation de l'imaginaire. Nous pouvons pénétrer comme dans un labyrinthe, hein, dans... les raisons qui ont précédé toute cette institution, qui les ont motivées, sur lesquelles elles se sont construites. Donc, essayer de remonter dans la construction sociale pour voir d'où ça vient, de la même manière, hein, que dans l'inconscient. Et en poussant l'analyse, nous parvenons à des significations qui ne sont pas là pour représenter autre chose, qui ne sont pas là pour représenter autre chose, qui ne renvoient plus à rien, qui sont comme les articulations dernières que la société en question a imposées au monde, à elle-même et à ses besoins. Les schèmes organisateurs, donc les structures organisatrices, qui sont conditions de représentabilité de tout ce que cette société peut se donner. Conditions de représentabilité. S'il n'y avait pas ces représentations premières, on ne pourrait pas se représenter autre chose. S'il n'y avait pas cette manière première de se situer, une sorte de manière de se situer, il n'y aurait pas moyen d'inventer, de créer autre chose. Pourquoi est-ce qu'on construit, on bâtit, on organise la production de la société? On le fait parce qu'on a au fond, quelque part, ici on parle non pas du fond d'un individu, hein, on parle du fond social, du fond de la création sociale, quelque part, une représentation de ce qui peut être construit. Enfin, une ouverture à la construction, on devrait plutôt dire ça comme ça, hein, une ouverture à la construction de quelque chose. L'être humain est un être qui est capable de construire toute une série de choses concrètes ou pensées ou imaginées. Cette ouverture, voilà, elle est structurée par un fantasme premier, par un signe premier qui ne renvoie plus à autre chose. Enfin, c'est même pas un signe justement, puisqu'il ne renvoie pas à autre chose. Bon, on va voir plus précisément ce que c'est justement dans la société capitaliste, et c'est de cette manière-là qu'on comprendra pourquoi tout ce détour extrêmement technique, hein, pourquoi tout ce détour, pour mieux comprendre justement quelle est la signification centrale de notre société, qui est celle qui, sur laquelle repose tout le reste, et qui, si on veut attaquer le mal à la racine, ben, c'est elle qu'il faut trouver. Si on veut attaquer le mal à la racine, il faut arriver jusque-là. Donc, la signification centrale, elle ne se maintiendrait pas si elle n'avait pas une prolification d'institutions secondaires, de significations secondaires ou périphériques. Hein, Dieu, s'il était débarrassé de tout ce qu'on dit autour de lui, de tout ce qu'on bâtit à partir de la croyance, il n'existerait plus. Enfin, son existence ne se maintiendrait pas. Hein, vous voyez pourquoi. Hein, je veux dire, on ne maintiendrait pas un signifiant sans référent, enfin, un signifiant signifié sans référent, si on ne pouvait pas construire là-dessus des tas de choses qui, elles, sont bien réelles. Si on ne construisait pas toutes ces choses au-dessus, bah, il disparaîtrait, il serait inutilisé, il n'aurait pas d'usage. Bon, je passe quelques exemples qui concernent uniquement la religion. Mais donc, puisque le social n'est ni un sujet, ni un inconscient lui-même, ni une faculté créatrice hein, au sens des facultés de l'individu qu'on peut situer dans un cerveau, etc. Bon, puisqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de cerveau social, bon. Alors, il faut bien, on se dit, il faut bien que toutes ces significations soient apparues chez des individus. Comment ça a pu apparaître? Elles se trouvent où, toutes ces significations imaginaires? Elles doivent bien se trouver dans les individus, puisqu'elles ne sont pas là à flotter en l'air au-dessus d'une société, elles sont quelque part. Alors, bien sûr, elles sont dans son faire, comme on l'a vu, hein, dans ces institutions, ben, elles sont dans la rue, dans les bâtiments, dans les codes, mais elles sont aussi dans les individus. Et elles ont dû apparaître d'abord dans les individus avant de se trouver dans les constructions. Ça c'est sûr aussi. Il a fallu concevoir une construction avant qu'elle existe. Non ? Donc ça, c'est sûr aussi. Mais alors, la question principale redevient, en quoi est-ce que l'institution sociale dépend de l'imaginaire des individus ? Quel est le rapport avec l'imaginaire des individus ? Et Castoriadis insiste sur le fait que je prends l'exemple de Dieu, parce que c'est encore celui-là qu'il reprend. Il dit « Dieu est peut-être, pour chacun des fidèles, une image, entre guillemets. » Alors, une image, pourquoi entre guillemets ? Parce que ce n'est pas nécessairement une représentation graphique, hein, comme un vieillard à longue barbe, ou peu importe comment on le représente, mais ce n'est pas nécessairement une image dans ce sens-là, c'est une image dans le sens très large, c'est-à-dire qu'on se représente un fidèle, un croyant, il se représente d'une certaine manière son Dieu. Il faut bien qu'il se le représente, il faut bien que quand il pense à lui, il y pense d'une certaine façon. Hein, il le personnifie, il se représente cette personne d'une certaine façon, peu importe laquelle. Donc, Dieu est pour chacun des fidèles une image, qui peut même être une représentation précise, hein, pour chaque croyant, ça peut même être quelque chose de très précis. Mais Dieu, en tant que signification sociale imaginaire, n'est ni la somme, ni la partie commune, ni la moyenne de ces images individuelles. Vous voyez, c'est clair, hein, Dieu en tant qu'imaginaire social, donc qui a été institué à un certain moment de l'histoire, ce n'est pas la somme de toutes les représentations que chaque croyant peut en avoir. On imagine mal d'ailleurs ce que pourrait être cette somme ou cette moyenne hein, de tout ce que les individus se représentent comme étant leur Dieu. Il est plutôt, et c'est là l'important, il est plutôt leur condition de possibilité et ce qui fait que ces images sont des images de Dieu. C'est justement parce qu'il existe Dieu dans la société, parce que Dieu a été institué socialement, que chaque individu croyant peut en avoir une représentation. Il n'en aurait pas s'il n'y avait pas cette signification imaginaire. Dans une société où la signification Dieu n'existerait plus du tout, même pas dans l'histoire, hein, même pas dans les archives, il n'y en aurait pas de représentation chez des individus. Ça ne vient pas des inconscients individuels, c'est l'inverse. C'est parce qu'elle existe socialement, et donc à tout moment, on a une référence hein, à un attribut de Dieu ou à une construction à partir de la religion. C'est pour ça que chaque croyant, alors, peut se faire une certaine image de ce Dieu. Donc, la signification de Dieu n'est pas dérivée des significations individuelles ou des besoins individuels de religion. Alors, du coup, la question est très difficile de savoir, et c'est la même chose pour ce qui nous intéresse plus politiquement, la question est très difficile de savoir, du coup, comment les individus peuvent avoir une certaine prise sur cet imaginaire social. Et on a déjà vu la raison, on a déjà rencontré cette raison, la raison de cette difficulté, qui est que les individus sont constitués par leur société autant qu'ils la constituent. Et on ne peut pas concevoir que l'un précède l'autre. Bon. Si maintenant on envisage une explication malgré tout par un besoin inconscient qui serait commun à toute l'humanité. Toute l'humanité aurait créé des dieux parce qu'il y a une sorte de structure humaine qui exprime ce besoin, qui a ce besoin. Freud a proposé une explication, a fait une hypothèse qu'il y aurait dans l'inconscient une sorte de manque, un trou, quelque chose, un vide à combler dans l'inconscient qui correspondrait à une fonction paternelle imaginaire. Hein, donc Dieu lié au père, ça n'a rien de très, comment dire, de très surprenant. Remarquez quand même que dans la conception, dans la religion chrétienne, Dieu est aussi bien le fils que le père, ce qui est intéressant. Hein, c'est intéressant par exemple pour le rapport à l'autorité. Le fait que dans la religion juive, Dieu soit exclusivement le père, mais que dans la religion chrétienne, Dieu soit aussi bien le fils que le père, c'est la même personne, le fils et le père, alors ça instaure un autre rapport à l'autorité. Non ? Là où l'autorité du père est absolue, dans la religion chrétienne, il y aurait quelque chose comme une autorité plus diffuse, moins directe, puisqu'on est aussi bien sous l'autorité du fils que du père. Enfin, ça me paraît une différence qui n'est pas anodine. Bon. Mais bon, bref, l'hypothèse de Freud, ça serait quand même de rapprocher l'institution du divin d'un besoin de tout inconscient, hein, de remplir cette fonction paternelle, mais non pas au sens concret du terme, mais au sens symbolique ou imaginaire. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que ben, voilà, ça suppose toute la théorie freudienne. Mais Castoriadis répond que il n'en demeure pas moins, même si cette hypothèse est bonne, il n'en demeure pas moins que l'individu ne peut combler son manque que en le remplissant à partir des significations déjà disponibles dans la société. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il remplit, s'il y a vraiment un manque d'une figure quelconque, paternelle, pourquoi est-ce qu'il le remplit à partir de cette signification-là, hein, qui n'est pas quelconque ? C'est qu'il la trouve déjà disponible dans sa société, et donc on a de nouveau l'impression qu'on n'atteint pas l'origine, que l'origine est renvoyée encore à autre chose. Et on peut faire aussi se demander, par exemple, comment naissent les religions à partir du phénomène de prophètes. Il y a quand même des fondateurs, en général, aux religions. Est-ce qu'on n'aurait pas là le lien entre l'individu et la création sociale ? Est-ce que ça ne serait pas simplement le prophète qui fait le lien ? Mais quant aux fondateurs de religions, on peut toujours dire que s'ils ont réussi à ce que leur fantasme privé ou leur imagination privée s'imposent, se répandent, soient adoptés de manière assez générale et durable pour fonder une religion, c'est que cette proposition-là correspondait à une certaine attente, mais non pas une attente universelle, puisqu'il y a des grandes diversités, et puisque d'autres prophètes d'État, on le sait bien, n'ont pas réussi. Hein, des tas de prophètes ont prêché pour rien, on ne les a jamais suivis, donc si celui-là a réussi à ce moment-là, c'est que, justement, il y avait une attente, cette société était mûre pour cette proposition-là et pas pour une autre. Donc on revient de nouveau à une interaction entre ce qui était déjà installé, la situation déjà culturelle installée, et la proposition nouvelle d'un individu particulier. Donc peut-être que cet individu particulier, effectivement, il a imaginé quelque chose de nouveau. Hein, chaque nouvelle religion instaure autre chose par rapport aux anciennes. N'empêche qu'il n'a pu réussir que s'il y avait une disposition dans la société pour accueillir ce changement. Il y avait un besoin de ce changement, peut-être. Un besoin ou une, ne fût-ce qu'une ouverture pour ce genre de changement. Donc on en est rendu de nouveau à la situation déjà existante et on n'arrive pas à dire qu'un individu est vraiment créateur d'une signification sociale. Il y a constamment une interaction. Et donc il faut voir cette interaction comme une régression, non pas à l'infini, parce que l'espèce humaine n'est pas infinie, non pas à l'infini, mais une régression qui remonte à des moments de l'hominisation, hein, de l'évolution vers l'humain, qu'il est absolument impossible de préciser. Il est absolument impossible de dire à partir de quel moment la toute première religion est apparue. Je parle ici de religion au sens large, non pas au sens d'une institution structurée, mais la toute première croyance, disons-le comme ça, la toute première croyance en quelque chose de surnaturel ou qui s'apparente à cette imagination d'un fictif qui devient réel, qu'on prétend réel. Bon, comment est-il impossible de déterminer ça, bien sûr, hein. Et c'est pas seulement impossible parce qu'on n'a pas de témoignages assez anciens, pas de traces assez anciennes, ou peut-être que ça ne laisse pas de traces, ce genre d'imagination nouvelle, mais pas seulement pour ça, mais aussi parce que la frontière, la limite est indécelable entre ce qui est une croyance de ce type et ce qui est simplement une interprétation du monde. À partir du moment où, à partir de quel moment est-ce que les sentiments qu'on peut éprouver par rapport aux forces de la nature, un sentiment de peur ou d'admiration, d'impression de sublime par exemple, à partir de quel moment est-ce qu'un sentiment comme ça, qu'ont dû éprouver très tôt les humains, est devenu, ce sentiment est devenu une croyance en quelque chose de un petit peu plus, juste un petit peu plus que la simple force naturelle. À quel moment est-ce qu'on a mis quelque chose comme une forme d'intention dans cette force, intention par rapport à nous dans cette force? Comment voulez-vous saisir ça? Tout dépend justement de ce que vous appelez une intention, ce que vous appelez le fait de dépasser la stricte interprétation de la force. Parce que tout être vivant interprète les forces naturelles par rapport à lui. Tout être vivant les considère en fonction de sa survie. Tout être vivant dira de cette force, elle est bonne ou mauvaise. Et bonne ou mauvaise, ça veut dire bonne pour moi, parce qu'elle m'avantage, mauvaise pour moi, elle n'est pas en soi, évidemment. Donc, impossible de saisir un moment où c'est devenu une croyance en le fait qu'il y a là comme une intention, comme une personne, hein, comme une personnification. Bon. Donc, ce problème de l'origine, je vais continuer encore un tout petit peu, ce problème de l'origine... Il ne faut peut-être pas trop se focaliser dessus, hein. Il ne faut pas avoir cette obsession de l'origine qui serait « il faut absolument saisir le moment où ». Ce n'est pas absolument indispensable parce que même si, Castoria dit, même si on n'arrive pas à saisir l'origine, on peut du moins comprendre le phénomène et donc le désacraliser, comme on dit, le désacraliser ou... Le relativiser et le faire apparaître dans toute sa contingence, lui enlever son caractère de nécessité. Il n'y avait pas de nécessité historique à ce qu'apparaisse Dieu. C'est une contingence. Il se fait qu'à un certain moment, effectivement, peut-être des forces ont été senties comme un peu personnalisées. Ce n'est pas une nécessité historique. C'est une contingence. Ça aurait pu être autrement, ça aurait pu ne pas nous arriver. Et donc, de là, vous voyez le rapport avec l'autonomie. Nous pouvons reprendre là-dessus une autonomie, nous dire il ne tient qu'à nous d'interpréter ce phénomène historique à la dimension que nous voulons lui donner. Et j'en viens, et puis je terminerai pour aujourd'hui, je vous donnerai la parole, j'en viens à un effet sur une question politique cette fois, où on peut reconstituer un peu le même genre de choses, sur la question politique de l'apparition de la division en classe. Hein, apparition extrêmement importante puisque c'est ce dont on essaie de se débarrasser et on n'y arrive pas. Pourquoi c'est si prégnant? À partir de quel moment ça a commencé? Pourquoi certains prétendent que c'est inéluctable puisque on peut dire que dans puisque c'est, on peut comprendre l'histoire comme un processus nécessaire où il a fallu à un certain moment, étant donné les conditions culturelles, que apparaisse une division en classe ou une forme extrême de la division en classe qui est l'esclavage. Castoriadis traite en même temps les deux questions, esclavage ou domination, exploitation d'une classe de travailleurs par une autre classe. Il les traite ensemble parce que l'origine du phénomène, des deux phénomènes, pour lui, est la même. Hein, c'est le fait de faire travailler quelqu'un pour soi, de le considérer comme un instrument, et donc de séparer un groupe en deux parties, une partie qui est au service de l'autre, une partie qui profite de l'autre. Donc peu importe. Je dis pas, il ne dit pas, ni moi, ni lui, ni moi, nous disons qu'il n'y a pas de différence entre un esclave et un travailleur libre, qui au moins a une vie privée, mais elle est pas, cette différence n'est pas importante pour la question. Et ici, on a une des critiques de Castoriadis vis-à-vis de la théorie marxiste, de l'explication marxiste, justement, de l'apparition de la division en classe dans la société. En fait, il lui semble qu'il y a deux versions de cette explication chez Marx et Engels. La première version, qui est la plus répandue, c'est que l'esclavage ou la division en classes laborieuse et non laborieuse et oisive est venue du fait de produire des surplus, de la production de surplus. Et cette production de surplus a été à son tour produite historiquement ou bien par un développement technique, c'est-à-dire que par hasard, on a inventé une nouvelle technique, hein, ça peut venir par hasard, on a inventé une nouvelle technique qui a permis un meilleur rendement de la production, donc une augmentation de la production, donc un surplus. Ou bien ça peut être par au moment de la sédentarisation, donc par rapport à la production nomade, chasseur-cueilleur, la production sédentaire est plus efficace, donc elle a pu à un moment produire des surplus. Et donc ce serait à partir de cette production de surplus qu'une classe oisive, parasite, serait devenue possible, puisqu'il n'était plus nécessaire que tout le monde soit occupé entièrement à la production. Mais qu'est-ce que Castoriadis reproche à cette proposition ? Proposition qui se base sur des études historiques de l'apparition effectivement de la division en classe, pour autant qu'on les connaisse, déjà au 4e millénaire, en Mésopotamie, en Égypte. On sait qu'il y a évidemment apparition là de classe et d'esclavage, et d'une domination d'une certaine classe. Donc, qu'est-ce que Castoriadis reproche à cette théorie, bon, à laquelle il reconnaît par ailleurs des parties importantes, c'est que on confond, enfin, ou plus exactement, on passe sans justification d'une possibilité à une nécessité. C'est-à-dire, on dit, il est possible désormais qu'il y ait une classe oisive. Il est possible désormais que certains vivent en parasite sur les autres parce que les autres produisent suffisamment. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est possible que ça va être réalisé nécessairement. La question reste entière de pourquoi ces surplus, on a décidé de les donner gratuitement à une classe qui ne travaillerait plus. On peut parfaitement faire autrement. Et d'ailleurs, nous avons des témoignages d'autres sociétés où on ne fait pas comme ça. Depuis les études, surtout de Marcel Mauss, l'essai sur le zoon, et d'autres études d'anthropologie qui ont mis en évidence, surtout dans des peuples d'Amérique latine ou des îles du Pacifique, ce qu'on a appelé le potlatch, donc un phénomène qui est à la fois de dons et de dépenses de prestige, de gaspillage. Alors, ce phénomène-là, typiquement, c'est une réponse à un surplus. C'est-à-dire que quand ces peuples-là, et ça dure encore maintenant, c'est encore revendiqué maintenant par certains, donc ça, c'est très ancien et ça dure toujours. Quand ces peuples-là ont des surplus, et ils en ont souvent, ça leur arrive souvent, même ils essayent même d'en avoir pour pouvoir après les gaspiller. Donc quand ils en ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent une énorme fête et ils dépensent tout en énorme réjouissance. Ces réjouissances qui sont liées à un certain prestige. Donc il y a une idée que plus on peut offrir à tout le monde, plus on peut faire dépenser, plus on a une certaine reconnaissance sociale. Donc ça, c'est lié aussi à un certain système de reconnaissance sociale. Et le don participe aussi à ça. Quelqu'un qui a trop donne. Et plus il donne, plus aussi il a un certain prestige social. Donc tout ça, évidemment, n'est pas l'imaginer comme n'ayant pas de contrepartie, comme étant du pur altruisme. Ça, peu importe d'ailleurs, peu importe la valeur. Mais il se fait que c'est comme ça qu'on utilise les surplus. Donc il n'y a pas de nécessité à ce que, parce qu'on est arrivé à un certain stade de force productive, et bien pour autant, une classe oisive se détache et laisse les autres travailler. Voilà, c'est à ça qu'il voulait en venir. Alors, l'autre version qui apparaît parfois, c'est que l'apparition des classes se serait faite en raison de la division des tâches, de la division professionnelle, la division des métiers. Donc, à partir d'une spécialisation, là encore, parce que le progrès technique fait que tout le monde ne peut plus tout faire, tout le monde ne fait pas tout aussi bien, il faut se spécialiser, ça demande des apprentissages, donc on ne peut pas tout apprendre, etc. Donc il y aurait une spécialisation des tâches, des métiers, des professions, et de là, ces métiers seraient devenus en même temps des classes. Alors ici, c'est pas lui qui répond, parce qu'il passe là-dessus rapidement, mais c'est vrai qu'on peut répondre que on voit bien que très souvent, dans une seule classe, on trouve à peu près toutes les professions productrices. Dans la classe prolétaire ou dans la classe laborieuse, pas seulement du capitalisme, mais aussi du système féodal, d'un système impérial, etc. Dans la classe laborieuse se trouvent tous les métiers. Donc on ne voit pas pourquoi la division, la spécialisation des tâches aurait nécessairement donné la division en classe. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi une classe ne fait rien, se contente de dominer, ou éventuellement possède les fonctions religieuses et militaires. Alors, religieuse et militaire, on comprend un peu pourquoi elle prend ces fonctions-là, c'est parce que de ce côté-là se trouve la force. Et il ne faut pas négliger, évidemment, l'importance de la force dans la naissance d'une oppression, bien entendu. Mais bon, en laissant ça de côté, on peut faire encore une autre hypothèse, c'est que, et ça c'est une hypothèse, bon, que Castoriadis ne fait pas. Lui, il a l'impression qu'on ne peut pas remonter à l'origine de la division en classes. Il a l'impression que l'explication de Marx est insuffisante, mais il n'en propose pas une autre. Et il me semble qu'on pourrait faire une autre hypothèse qui a été formulée par Nietzsche dans la généalogie de la morale. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche généralise, alors peut-être qu'on ne peut pas généraliser, encore une fois, et c'est important d'ailleurs de ne pas généraliser, mais il généralise quelque chose qu'il observe chez les peuples indo-européens. Il se fait qu'au deuxième millénaire, il y a eu une migration à partir de l'Europe centrale d'une série de peuples qui ont essaimé dans toute l'Europe et dans une partie de l'Asie, l'Inde et la Perse notamment, et qui ont créé donc cet énorme ensemble culturel qu'on appelle indo-européen, qui a une langue apparentée, il y avait une langue unique au départ, et qui a des structures sociales et des structures religieuses apparentées. Donc ça forme tout un bloc qui, on sait d'où ça venait, on sait à quel moment ils ont migré, tout ça est connu. Et à partir de là, Nietzsche remarque que, à plusieurs endroits, ces peuples qui étaient des guerriers et chasseurs nomades se sont imposés à une population antérieure qu'ils ont asservie. Qu'ils ont asservi et qu'ils ont utilisé comme producteurs. Donc ils se sont imposés par la force, les autres n'étant pas aussi bons guerriers, n'étant pas capables de se défendre. Et cette explication-là est assez tentante, effectivement, pour l'apparition de la division en classe. Parce qu'on ne serait plus obligé de se dire que dans un groupe au départ homogène, à un certain moment, une partie du groupe s'est dit « Nous sommes différents des autres, nous ne ferons désormais plus la même chose que les autres et nous allons les utiliser » comme des instruments à notre profit. Comment est-ce que ça a pu apparaître dans une société? On ne le voit pas, on n'arrive pas à l'expliquer. Sauf, je le dis tout de suite, sauf la division sexuelle. Ça, c'est la seule qui, malheureusement, partout, partout a été effectuée. Donc, partout, il y a une division sexuelle des tâches, absolument partout, même dans les sociétés plus homogènes. Et en général, elle se traduit par une domination. Nous sommes la seule exception, la seule société depuis très récemment où la division sexuelle des tâches est mise en question, où il est possible de ne pas avoir de division sexuelle des tâches. C'est assez extraordinaire. Donc, mis à part celle-là, qui évidemment a un fondement biologique et donc on la comprend, ce n'est pas très difficile d'instaurer cette division à partir d'une différence biologique. C'est d'ailleurs toute la justification qu'on donne habituellement. Vous devez porter les enfants, donc vous n'êtes pas capable pendant ce temps-là d'aller à la chasse, ou quoi sais-je. Mais donc, je laisse ça de côté. Et ce qui est tentant dans l'hypothèse de Nietzsche, c'est que justement, il n'y ait pas eu besoin d'une division du groupe, qui au départ est plus homogène. C'est au contraire que la société vient de deux composantes différentes, de deux peuples différents, qui avaient certainement des différences physiques importantes. Et donc, c'était facile de reconnaître qui était de quel camp. Et c'était facile aussi de se dire « je ne suis pas le même que l'autre ». Je ne suis pas le même que cette race de sédentaires qui gratte la terre depuis toujours alors que nous errons sur nos chevaux, etc. Donc c'était facile de mépriser un autre peuple. C'était facile. Et de dire, on va le faire travailler pour nous, de toute façon, il vaut moins que nous. Si vous partez de deux peuples différents, voilà, on peut comprendre alors comme ça que ces guerriers donc, se soient sédentarisés et se soient établis comme une classe permanente, dominant la classe antérieure, et sans se mélanger. Sans se mélanger, ce qui était facile encore une fois, et ce qui a instauré d'ailleurs toutes les lignées héréditaires d'aristocrates. L'aristocratie, c'est les familles, c'est les grandes familles qui se transmettent par héritage leur culture et leurs privilèges. Mais simplement, ce qui est important de dire ici, c'est pour ça que je disais que c'est important qu'il ne faille pas généraliser ce modèle, ça ne s'est pas nécessairement passé de la même façon partout, et il n'y a aucune raison de dire non plus que un peuple de guerriers, de nomades, chasseurs, donc habitués au maniement des armes, c'est pas nécessairement qu'il va s'installer auprès d'une population précédente et la dominer, la faire travailler. C'est pas, il n'y a aucune nécessité à nouveau à ce que ça passe dans l'histoire. Pourquoi ? On a des tas d'exemples de sociétés guerrières nomades qui se sont contentées de faire des razzias auprès des sédentaires, qui se sont contentées d'incursions violentes où on enlevait tout ce qu'on pouvait enlever et puis on continuait sa vie nomade. Donc, encore une fois, il n'y a pas de nécessité dans cette histoire. Et ça va tout à fait dans le sens de la thèse de Castoriadis. L'histoire n'obéit pas à des nécessités, c'est des choix. Il a fallu que ces guerriers, à un certain moment, choisissent de se sédentariser et de dominer l'autre peuple plutôt que de continuer leur vie précédente. Ce qui est encore une manifestation de la création, du pouvoir créateur. Et voilà comment on peut comprendre l'origine, une origine possible de la division en classes, et ayant à nouveau dédramatisé cette contingence historique, cette idée qui est venue à ce peuple de faire ça, peut complètement la dédramatiser et se dire « nous ne sommes absolument pas tenus par ça ». Nous ne sommes en rien tenus par ça. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette division. Et donc, nous la supprimons. Alors, on ne va pas dire que c'est facile, mais une première étape pour supprimer la division en classe et l'antagonisme de classe, et la séparation entre dominant et dominé, et le recul de l'exploitation, une première étape, c'est quand même de se rendre compte qu'il n'y a aucun caractère inéluctable à cela. Que ce qu'on a hérité historiquement ne nous détermine pas jusqu'à la fin des temps. Et que, alors évidemment, la deuxième étape, ça sera comment est-ce qu'on va se donner la force de le changer? Par quoi ça va passer? Ça, c'est une autre question. La philosophie s'arrête là. Voilà. Au moins, la philosophie, on peut dire, jusque-là, elle a rempli son rôle. Après vient la volonté politique, la lutte politique. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour l'instant. Et la semaine prochaine, je vous reparlerai notamment du relativisme culturel et on reviendra à la possibilité de s'autonomiser. Donc je vous donne la parole et entre vous, comme vous voulez. Je ne sais pas si le micro sera nécessaire.
Sur le site, il y a une très bonne quête de la Togo.
Sur le quoi?
Sur le signe.
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est un sémiologue. Oui, bien sûr. Oui, il était un sémiologue. Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que par rapport à la fois dernière, c'est plus technique.
Une question philosophique. pas la question. Je dirais que c'est comme ça qu'on va aborder les choses si on veut changer. Parce que s'il n'y a pas ce préalable, ce sera
une guerre. Et si on se contente de mettre en place une question à des fois ce qu'on commence, on ne sait pas. Il faut supprimer les points de situation.
Moi je perçois vraiment une sorte de malaise assez intéressante parce que la fois passée aussi tu as intervenu un peu dans le même sens et je pense que la philosophie elle doit se justifier par rien, c'est-à-dire la philosophie n'a pas un objet de réalisation politique. Le seul rôle de la philosophie, c'est une science en fait, c'est une science et son seul rôle c'est de questionner. Et donc, elle ne peut pas faire autrement que de questionner tout, y compris la religion. Quelqu'un d'autre aurait pu se lever en disant « Mais la philosophie questionne Dieu, Dieu n'a rien à faire de la philosophie. » Ben oui, effectivement, Dieu n'a rien à faire de la philosophie. Mais personne ne s'est levé pour faire ça. Et par contre, tu t'es senti un peu choqué, à la fois la fois passée cette fois-ci, quand on a parlé du marxisme, en fait, mais la philosophie ne peut pas faire autrement que d'interroger sur le marxisme, comme elle peut interroger sur toute autre chose, en fait. Et donc, ça fait partie de sa fonction, et elle n'a pas d'autre justification à se donner. Et par ailleurs, une autre chose que je trouve frappante et qui est intéressante, c'est la question politique. Alors, celle-là, elle est extrêmement importante, et je pense que beaucoup de gens qui sont ici sont à la recherche de la question politique, parce que le sujet de l'ensemble des séances, c'est autonomie et aliénation. Il manquait la moitié. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que les deux fois, tu dis, mais quelle est la recette de l'autonomie ou du projet politique? Est-ce qu'on a dit d'abord que c'était la religion, et puis on a dit que c'était... on a dit d'abord que c'était ceci, puis on a dit que c'était l'économie, et maintenant on dit que c'est la philosophie. Mais je pense que... ici aussi, je ne sais pas si le but est de trouver une espèce de recette universelle, parce que, bon, moi je suis scientifique par exemple, et quelque chose qui m'horripile, c'est le discours politique actuel, ou le discours positiviste du 19e siècle, qui était même indépendant. Celui du 19e siècle, qui n'était même pas dans cette sphère économique, c'était une confiance assez naïve et quasiment troublante de naïveté en disant « la science va trouver les solutions à tout, y compris à l'organisation de la société ». Actuellement, ce qu'on nous dit, c'est que la science doit trouver des solutions à quoi ? À l'économie, c'est-à-dire que la science, c'est plus un questionnement sur les mécanismes du vivant, de l'univers, etc., mais que la science doit avoir pour fonction de développer l'économie, parce qu'on va faire... La science est l'innovation technologique, la technologie va créer de l'économie, et l'économie va créer du bonheur pour tous. Donc, tous ces discours-là, c'est en fait justement leur problème, c'est d'essayer de trouver une discipline qui va être la solution à l'organisation sociale. La seule solution à l'organisation sociale, c'est le discours politique, le débat politique. Il n'y a pas une recette toute faite. Et la philosophie, enfin, comme les deux personnes avant moi l'ont dit, je pense, si elle peut jouer un rôle dans le politique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait indépendante du politique, évidemment, surtout dans la mesure où elle peut poser des questions sur la politique, et justement amener les gens à se dire, mais le système dans lequel on vit, il nous a été donné par notre éducation, mais il n'est pas invariant, il n'est pas absolu et il n'est pas transcendant. Il n'est pas transcendant, on peut le questionner. Ça, c'est le rôle de la philosophie. Et comme l'a très bien dit Annick, ici s'arrête le rôle de la philosophie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le projet politique. Si on veut parler de politique, alors faisons de la politique. Enfin, voilà, il me semble que...
C'est ce qui marche, de toute façon, nous n'avons fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Ça, c'est
lève-toi peut-être pour. Parce que comme tout le monde est assis.
Non, mais je reprends ce que tu disais. Et nous attendons de là, c'est-à-dire que la philosophie, de manière, on peut la reprendre. Hein, mais ensuite, lui, Marx, à un moment donné, a dit bon, nous n'avons fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. C'est-à-dire là, les philosophes, interpréter, c'est pas la philosophie. Maintenant, il s'agit de le transformer politiquement, économiquement, etc. Mais la philosophie revient toujours à interroger de toute manière. Voilà.
C'est comme la culture.
Ça va dire quoi, c'est ça. C'est tout l'intérêt, ça. C'est social.
On va venir plus tard, mais la prochaine fois, on arrive dans l'optimisme, mais c'est une façon. Je n'ai aucune. Moi, par rapport à aucun sens, mais du corpus, et de enfin, j'aimerais bien sortir de ma stupidité et de mon ignorance. Mais je ne crois pas avoir quelque chose à changer. Par ailleurs, vous êtes tous plus au fait que moi. Mais c'est vrai que c'est le monde décidé qui va donner des solutions. Hein. Je ne crois pas avoir une force. Je ne veux pas.
Ouais. J'ai une question différente sur un terme que vous avez entendu. Il est plus cérébral, dans le sens où c'est plus différent. Et on va vous dire que c'est plus dommage que vous avez dit. La poignée, par exemple. Alors, non, je n'ai pas encore su ce que ça voulait dire, ce que vous pouvez développer.
Oui, paysager urbain. Alors, ça insiste plutôt sur le côté producteur, alors que la praxis, ça insiste plutôt sur le côté du grand détaché de la production, un agir humain qui n'est pas strictement le développement humanitaire utilitaire. Mais en fait, d'où vient cette distinction? Elle vient d'Aristote. C'est-à-dire que c'est Aristote, il considérait qu'il y avait trois types d'activités. Il y a une activité théorique qui est l'activité qui consiste à essayer de connaître ce qu'on nous est donné. Donc ce qui nous est donné, bah, c'est tous les aspects du monde, hein, tous les aspects du monde, y compris notre propre existence, enfin, notre propre faculté. Donc ça, c'est l'activité théorique, c'est celle qui essaie de connaître. Et puis il y a l'activité poétique et l'activité pratique. Pour poétique, ne doit pas être prise au sens de la poésie, qui est dans un sens extrêmement étroit, qui s'est développée progressivement, qui s'est montée progressivement. Mais la différence entre poétique et praxis, d'après Aristote, c'est que le poiein, la poétique, consiste à produire un résultat qui n'est pas l'action elle-même. C'est-à-dire qu'on fait une action qui est un certain processus qui mène à un résultat, qui mène à un produit. Quand le produit est matériel, c'est très simple de distinguer les deux. Il y a la production et puis il y a la matière, le corps qui est produit. Mais on doit mettre aussi dans la production des productions d'objets qui ne sont pas matériels. Je veux dire, par exemple, la production d'un discours, d'un cours, d'un poème, c'est de la production quand même si l'objet n'est pas matériel. Parce que c'est un certain processus au bout duquel il y a le résultat qui est produit. Ça, c'est une poésie. Alors qu'une praxis, c'est une action qui est immédiatement son résultat. Et l'exemple que donne Aristote, c'est la vue. La vue, c'est une praxis parce que je vois immédiatement, j'ai vu. C'est pas un processus qui développe quelque chose au bout duquel j'ai le résultat. C'est instantané. Une praxis, c'est instantané. Je vois et j'ai vu, c'est instantané. Et alors, il étend aussi la praxis à l'éthique. C'est-à-dire que être juste, par exemple, c'est une praxis. Alors, c'est aussi une caractéristique acquise de quelqu'un parce qu'il a développé en lui un certain caractère. Mais un acte de justice, par exemple, si je fais acte de justice envers vous, c'est une praxis. Donc c'est bon pour tout ce qu'on reconnaît dans la sphère éthique. Si je fais acte d'honnêteté, c'est une praxis. Et aussi dans la politique, du coup. Quand on fait un acte politique, c'est une praxis. Alors, je dis tout de suite que cette distinction d'Aristote, elle a très vite été considérée comme peu claire parce que pas assez tranchée. C'est-à-dire qu'elle est discutable. C'est vrai qu'un acte politique, on voit bien que pendant qu'un homme est en train d'agir politiquement, il est en train de prendre la parole à l'Assemblée, il essaie de convaincre de prendre une certaine décision et pas une autre. Donc il fait un acte politique. Cet acte politique, à chaque moment, il convainc. C'est pas comme un processus où il faudrait attendre la fin pour atteindre le résultat. C'est pendant qu'il est en train de le faire, il est déjà dans son état, il est déjà occupé à atteindre ce qu'il cherche. Et donc, on peut dire que c'est une praxis en ce sens. À chaque étape, à chaque moment, à chaque instant de son action, il est déjà dans l'action. L'action est déjà dans son état. Voilà. On peut accepter que c'est une distinction, en fin de compte, un peu floue, un peu vague et qui n'est pas extrêmement utile. Mais il faut ajouter aussi que pour lui, en gros, ce qui importait, c'était surtout de savoir qu'est-ce qui était subordonné et qu'est-ce qui commandait. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait il faut que la production soit soumise à la politique. Et c'était justement un rapport, précisément, entre l'économie et la démocratie. L'économie doit obéir à la décision démocratique et non l'inverse. Là, par contre, c'est un degré important de dire que la sphère productive, ce n'est pas elle qui décide en général. C'est l'assemblée politique qui décide de la production internationale. Là, on voit à quoi est utile cette théorie, cette distinction.
Une question de détail aussi sur la distinction entre représentation et symbole. Parce que ça m'a un peu choqué que tu dises l'image est un symbole, pas pour moi. J'aurais plutôt l'image, tu parles de société de pub. Je voyais ça plutôt comme une représentation, pas comme un symbole. Est-ce que tu peux expliciter la distinction que tu fais entre La difficulté, je crois, vient du mot représentation. C'est-à-dire que le mot représentation, on peut le prendre dans un sens très large, comme le fait Castoriadis, ou dans un sens assez étroit, où il veut dire copie, en fait, copie, imitation. Et il n'entend pas dans ce sens-là. Il utilise, je crois, jamais dans ce sens-là. Il utilise toujours au sens large de représentation, ça veut dire. C'est comme le sens de signification qu'il utilise au sens large aussi. C'est tout ce qu'on peut se donner comme. Alors c'est difficile, comme contenu mental, ou comme on disait à l'époque de Descartes, comme idée. Hein, j'ai une idée, mais une idée, c'était, ça pouvait être une image, ça pouvait être un concept, ça pouvait être une invention, ça, n'importe quel acte mental, un contenu qui passe par la tête, c'est une idée. Eh bien, c'est ce que Castoriadis appelle représentation. C'est une représentation. Donc ça veut dire que ça soit dans ma tête, alors que, mais que ça renvoie à quelque chose qui est aussi extérieur à ma sphère mentale. Donc c'est une représentation. Attends, je termine. Donc à ce moment-là, évidemment, une image mentale est une représentation. Mais représentation est beaucoup plus vaste, parce que c'est un genre beaucoup plus vaste qui inclut aussi les images mentales. Mais maintenant, une image physique, c'est-à-dire un support, une peinture, un dessin, ça peut être représentation au sens étroit du terme, c'est-à-dire une imitation, une évocation de quelque chose. Peu importe que ce soit fidèle ou pas d'ailleurs, mais il le reconnaîtrait, c'est-à-dire qu'il admettrait qu'une image est une représentation dans ce sens-là, mais pas au sens d'une représentation mentale. Mais ce qui l'intéresse à ce moment-ci, c'est de prendre l'image dans sa référence à autre chose. L'image, on peut dire qu'elle a d'autres caractéristiques, elle n'est pas réduite à être une représentation d'autre chose. L'image, elle peut avoir beaucoup de variations, de propriétés différentes, donc justement, donc je disais figurative, non figurative, etc. Donc, elle n'est pas réduite à être un symbole, mais elle est aussi un symbole par son pouvoir de renvoyer à autre chose. Et comme c'est ça qui l'intéresse à ce moment-là, ben, c'est là-dessus qu'il insiste. Sinon, on n'est pas d'accord de la représentation.
C'est la
symbologie. Voilà, c'est dans le cadre de la façon du signe.
Une représentation symbolique, une image qui le précise bien, je prendrai la balance et la justice. La balance qui représente la justice, c'est-à-dire voilà, le poids, hein, c'est-à-dire à charge et à décharge. Voilà. Et la balance est l'image, le poids, et la représentation symbolique de la justice.
Qui dessine une balance, voilà. c'est une image.
Hein,
et en plus, alors non seulement elle est symbolique d'une vraie balance, voilà. Puisque c'est l'image d'une balance, voilà. Mais en plus la balance est elle-même symbolique d'une conception d'égalité.
Voilà. Exactement.
Oui,
sur Dieu et sur l'absence de référent. Donc, je sais qu'il y a des religions animistes, donc là, il y a bien un référent. Est-ce que vous pouvez développer quelque chose de la différence ? Et puis, vous avez également dit, donc, la religion, enfin, on n'en connaît pas l'origine, on ne sait pas qui a décidé, peut-être, mais on sait que c'est Constantin qui a donné à la secte chrétienne, pour des enjeux de politique et de domination du monde, qui lui a donné son aura, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez développer sur ces deux aspects ?
Oui, c'est deux aspects très intéressants. Alors, les religions animistes, c'est un peu différent parce que ça évoque plutôt le fait de donner à des éléments de la nature ou à des forces de la nature ou à des êtres humains éventuellement morts un pouvoir qu'on ne peut pas vraiment constater, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment perçu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu constater que les morts avaient un pouvoir. On l'imagine, on peut dire que c'est une création imaginaire, on l'imagine à partir de certaines manifestations qu'on interprète comme ça, par exemple les rêves. Si les morts reviennent dans les rêves, c'est peut-être qu'ils existent encore quelque part. Ou à partir
d'événements dont on leur attribue la responsabilité. S'il m'est arrivé un malheur, c'est parce qu'un mort se venge de moi. C'est une interprétation. C'est très clairement une interprétation. On ne peut pas dire qu'à un moment quelconque, on a ou bien observé ou bien pu reconstituer logiquement qu'il y avait eu une intervention là d'un mort ou d'une force de la nature personnifiée. Donc on peut dire que ce sont des éléments imaginaires, c'est pas un problème. Est-ce qu'ils se réfèrent à quelque chose? Ils ne sont pas directement du perçu et ils ne sont pas directement du rationnel, hein, pour reprendre la division tripartite. Ils ne sont pas directement du rationnel parce que le rationnel, Castoriadis l'entend donc dans le sens d'une division qu'après on peut questionner et qu'il a d'ailleurs questionné, on peut revenir là-dessus plus tard, hein, notamment en rapport avec le relativisme culturel, on reviendra là-dessus. Hein. Pourquoi nous considérons qu'il y a une division tripartite entre réel, rationnel et imaginaire? D'autres sociétés ne font pas cette division tripartite. Mais bon, le rationnel, il l'entend au sens de ce que, à partir d'éléments observables, on reconstitue pour en faire une théorie, hein, science, ce que nous appelons aussi scientifique, c'est-à-dire cohérente, générale, explicatrice. Et donc pour ça, on crée des concepts qu'on ne trouve pas directement dans l'expérience, par exemple le concept de cause et d'effet, bon, ça c'est nous qui créons pour expliquer des rapports entre des choses, mais on ne voit pas directement la cause et l'effet. On les observe pas directement, donc c'est des reconstitutions logiques en quelque sorte, où quand on étudie les particules élémentaires, on ne peut pas dire, jamais on en fait l'expérience directe, mais on reconstitue leur existence en fonction des faits qu'on constate. Donc c'est du bâti. Le rationnel est bâti sur de l'observable, c'est une explication du réel, mais qui consiste uniquement à l'expliquer par des régularités, par des explications causales et ce genre. Donc, on ne peut pas dire non plus que l'animisme, ce soit ça, parce que, alors, vous allez dire ça, c'est justement, c'est discutable, et là, on tombe dans un dialogue interculturel. Est-ce qu'on peut dire que, pour un animiste, justement, ça fonctionne de la même manière? C'est-à-dire, autant, quand nous, on dira, ben, c'est la cause des photons, lui, il dira, c'est la cause d'un esprit. Est-ce que c'est la même chose? Là, c'est tout le débat sur la scientificité de la science par rapport aux autres discours. Et donc, la science elle-même établit ses méthodes de vérification, etc., pour essayer de... justement d'éviter que son discours soit simplement une imagination. Ça, c'est une partie de la question. Alors, qu'est-ce qui est la différence aussi entre cette affirmation d'existence donc d'esprit et l'affirmation de Dieu? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il joue effectivement le même rôle de signification centrale que Dieu. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une autre différence, étant donné justement que tout ce qu'on leur attribue, ça, c'est la même chose que ce qu'on attribue à Dieu. Oui. On leur attribue des effets, comme justement des effets de production, des effets d'influence, exactement de la même manière qu'à Dieu. Donc je pense que le fait qu'ils soient distribués, qu'ils ont un étayage naturel, mais... Dieu aussi, on l'a vu, Dieu aussi a un désappui, comme il disait, dans le perçu, des liens avec le rationnel, parce qu'on essaie d'expliquer des choses grâce à lui. Pas trop de différence. Enfin, je ne sais pas si c'est satisfaisant. Je sais pas.
Il me manquait un aspect social, parce que Dieu, vous avez expliqué tout à l'heure, en fait, tout le monde s'est mis d'accord, on s'est suivi là-dedans, et on a expliqué que vous pouvez être bleu, bleu, vert, etc. Enfin, tout le monde a convergé vers ça, mais il y a des religions où c'est pas ça, chacun se fait chez soi. Chacun dit, c'est tel truc en quoi je vais me référer. Chez les Chinois, c'est peut-être les anciens, mais les anciens, c'est des siècles d'ancêtres qu'on respecte et qu'on vénère. Ça peut être l'arbre du coin, ça peut être. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui devient religion et comme phénomène social et qui ensuite peut être approprié par Constantin et devenir un instrument de domination? Ou qu'est-ce qui fait qu'il y a des peuples qui peuvent vivre tranquillement en se faisant à domicile
Voilà. C'était votre deuxième question initiale. Pour celui-là, c'est certain que dans le succès qu'a une religion, il y a toute une part de rapport de force, de choix politique, et que toute cette partie-là, en fait, Castoriadis n'en traite pas parce qu'elle n'est pas mystérieuse, elle n'est pas difficile, je veux dire, c'est une reconstitution historique. Comme vous disiez, on peut dater de Constantin le moment où la religion est devenue hégémonique dans l'Empire romain, et on peut le dire de toutes les autres religions, on connaît leur développement historiquement, donc ça, c'est pas mystérieux. Et bon, il faut tenir compte évidemment du facteur de contrainte, de conversion de force, etc., qui existe dans la plupart des religions, enfin, qui ont existé à un moment historique de tout, quasiment toutes les religions. Donc tout ce côté-là, il le trouve. Bien entendu que ça fait partie de l'explication, mais ça, tout ça, ça vient après. Ce qu'il essaie de reconstituer, c'est beaucoup plus mystérieux parce que ça vient avant tout ça. C'est, premièrement, la disposition même à croire en un Dieu. Parce que le problème, c'est le croyant. C'est pas celui à qui on impose une religion, à coup d'inquisition ou de que sais-je. C'est pas mystérieux. Ce qui est mystérieux, c'est le croyant. Pourquoi il y croit ? C'est ça qui est drôle. Ils sont obligés. Mais pourquoi il y croit ? Donc c'est pour ça qu'il traite plutôt de ce côté-là, comment la croyance est venue aux hommes, pour la première fois. C'est pas tellement comment la religion, en tant qu'institution structurée, est venue aux hommes, mais comment la croyance est venue. Croyance, hein. Et peu importe donc que ce soit une croyance en un Dieu qui est plus ou moins uniformisée, plus ou moins le même pour tous, ou la croyance en des esprits dont chacun peut avoir le sien. Parce que quand vous dites effectivement les esprits peuvent être différents pour chacun a ses ancêtres, chacun a ses éléments naturels qui revêtent une signification particulière pour lui, mais tous en ont. Et c'est ça qui est social, c'est le fait que tous en aient. Et que ici, ça ne serait pas possible, dans cette culture-ci par exemple, ça ne serait pas possible d'avoir une relation. Oui, enfin, ça serait possible par contagion, hein, bien sûr, par conversion, par choix. Alors ce serait vraiment un choix. Mais ça ne serait pas possible que. Oui, ce serait possible, mais ça serait tout à fait marginal, effectivement, que ça ne serait pas possible que ça devienne une idée généralisée. Hein, c'est-à-dire que tout le monde se mette à adorer ses ancêtres et certains objets naturels, ça ne se sera pas généralisé. Enfin, ou alors, ce serait un changement de société. Quoi. Voilà, on serait dans une autre société si on arrivait un jour à ça par modification historique.
L'adoration des objets naturels, la consumérisme.
Mais c'est différent parce que effectivement, on les adore d'une toute autre manière. Déjà, on les détruit. L'adoration aussi, ça les détruit. Oui, c'est pas justement.
Il y a aussi une différente forme, mais c'est aussi une adoration. C'est quand même, on ne peut pas nier ce fétichisme dont on parle. C'est difficile. De voir comment les gens ont des objets marchands. Parce qu'on n'est pas tout le temps en adoration, on n'est pas dedans. Alors, il y en a, évidemment, on comprend les objets d'utilité, mais après, ce ne sont pas du tout nécessairement d'utilité, mais ostentatoires en même temps, de ce qu'ils vont représenter, et voilà le truc.
Ben voilà, tu l'as dit, ostentatoire, etc. Donc,
on peut aller. Bien sûr.
Ça
joue dans ce rôle.
Bien sûr, donc en fait, ce n'est pas tellement les objets en eux-mêmes qu'on adore, c'est justement la reconnaissance sociale, le prestige social qui va avec, plus le plaisir. Alors, il y a tout un développement sur le plaisir aussi chez Castoriadis qui est intéressant et qui est aussi lié à la psychanalyse. C'est-à-dire que Castoriadis, il pense que l'homme se caractérise par une transformation du plaisir d'organe à un plaisir pris pour lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, ce n'est pas tellement le plaisir d'organe, c'est-à-dire satisfaction d'un malaise, hein, évitement d'une douleur, donc satisfaction de besoins naturels ou simplement de confort, de se sentir bien, donc ça qui est le plaisir d'organe. En fait, l'homme se caractérise, à cause de son imagination, justement, par une recherche du plaisir en lui-même. On cherche le plaisir pour le plaisir. Et donc, on le remplit chaque fois d'autre chose, peu importe de quoi on le remplit. Et donc il y a de ça aussi une sorte de comportement qu'on pourrait dire, je pense, cliniquement compulsif ou dans la consommation. Le fait qu'on a besoin de... Non, peu importe l'objet. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de sacralisation de l'objet parce que peu importe l'objet. Peu importe l'objet, l'objet il change avec la mode. Il change tout le temps avec la mode. C'est-à-dire la dimension sociale, sa détermination sociale. Les objets qu'on convoite changent tout le temps. Et donc c'est la preuve qu'on les convoite d'une part parce que c'est la société qui détermine ce qui est désirable, et d'autre part, parce que, comme tu as dit, pour une certaine ostentation.
Mais chaque objet appartient à un moment d'une histoire. Hein. Aujourd'hui, il faut voir le quasi-adoration devant leur véhicule, par exemple. Il y a un véhicule, un Porsche ou autre, par exemple. Il y
y a ce côté-là aussi. Et, mais de toute façon, ce regard fétichiste, ce fétichisme, c'est ce, l'objet que renvoie, mais ce que lui, le sujet, c'est le sujet qui fait finalement cette adoration. Donc, alors, peu importe que ce soit une voiture ou autre chose, hein, mais il appartient à un moment donné de l'histoire.
Mais c'est clair, et de toute façon, oui, c'est essentiel ce que tu dis. Mais en fait, on en avait un peu parlé plus la semaine dernière, oui, à propos de la création de besoins qui caractérise complètement notre civilisation. Mais c'est absolument fondamental, puisque là réside l'aliénation. Oui. L'aliénation réside dans le fait d'avoir constamment besoin de nouveaux objets de satisfaction. Et si on ne saisit pas ça, alors on peut avoir une lutte politique, hein. On peut lutter pour un changement économique, par exemple. Hein. On peut lutter pour que les travailleurs reprennent la machine et reprennent l'autogestion, etc. Si on n'a pas résolu ce problème-là, on n'aura absolument rien changé à notre problème. On va continuer dans la croissance, donc dans le suicide écologique et autres. On va continuer à se perdre dans des manières de penser limitées. Enfin, c'est un peu... Bon. Donc... Voilà, c'est essentiel le fait de prendre conscience que c'est ce désir même, c'est ce relancement d'un désir absurde qu'il faut arrêter.
Moi j'étais un peu frustré quand tu as rapidement balayé l'histoire des trois ordres du Messie, c'est-à-dire les trois fonctions sociales, le laboureur, enfin, le travailleur, le clerc et le chef, enfin, le militaire. Il me semble que c'est les fondements de notre imaginaire d'un type de société, en tout cas la nôtre, ou en gros l'indo-européen. Et comme ça, d'un coup, ça a été déblayé, en tout cas, on ne parle pas, mais ça m'a surpris. Voilà.
Alors, ça a été passé rapidement parce qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire que là, ça, c'est une institution indo-européenne. Hein, c'est une partie justement de ces institutions indo-européennes. Qui est la division tripartite de la société, hein, du côté des producteurs, il y a tous les métiers politiques, et puis effectivement il y a les deux fonctions qui sont dominantes, la militaire et la religieuse. Mais, et donc ça s'est installé à partir du moment justement où les Indo-Européens se sont sédentarisés, où ces tribus asiatiques se sont sédentarisées, et donc ont créé des formes de société, comme je disais, double ou triple, peu importe double ou triple, parce que souvent... les fonctions militaires et religieuses vont ensemble. Ah, c'est deux fonctions distinctes, mais ça peut appartenir à la même classe. Donc, effectivement, c'est un de ces traits indo-européens. Mais si tu veux, ce qui intéresse Castoriadis, c'est de remonter au-delà, c'est-à-dire de se dire pourquoi cette division tripartite s'est installée, parce qu'elle n'a pas toujours existé. Elle n'a pas toujours existé. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à prendre? Est-ce qu'il y avait une indivision? L'indivision, elle est plus facile chez des peuples de chasseurs. Parce que tout le monde chasse. La religion, c'est en gros une religion des forces de la nature. Hein. Chez les Indo-Européens, on le sait, quoi, Zeus, c'est l'orage, la poudre. C'est plus facile que ce soit homogène, partagé par tout le monde. Tout le monde est guerrier, tout le monde est producteur. C'est vrai qu'on comprend mieux avec la sédentarisation une certaine division. Mais donc, ça correspond effectivement à l'hypothèse de la généalogie de la morale, de Nietzsche. Mais... dire qu'elle est universellement vraie, mais ce que tu dis, ça correspond. Quoi. Ce sera le stade, effectivement, où cette sédentarisation des nomades a lieu et il en résulte une division tripartite.
En préhistoire, les premières chefferies qu'on constate, c'est au moment de la néolithisation, les dogmes, etc.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut savoir?
Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qu'il
y a? Le reste, on ne constate pas.
Voilà, on ne constate pas. On n'a pas de traces.
Mais vous avez parlé de la religion comme étant, en insistant sur l'explication du monde, la cause de... Il y a quand même un autre problème, c'est celui de la finitude. Et la religion paraît être une réponse à l'angoisse de la mort et une fille après la mort.
Alors, vous anticipez sur quelque chose que je dois développer, parce que c'est un point très important pour Castoriadis, c'est l'acceptation de sa propre mortalité. Et c'est quelque chose justement qui lie à la démocratie, qui lie à la notion de démocratie. Et cette liaison, elle n'est pas évidente. Et c'est pour ça que je n'avais pas envie d'anticiper. Mais je vais y venir, ça c'est sûr. Mais c'est très important pour lui, effectivement, cette notion d'accepter sa mortalité. Sinon, on est forcément aliéné. Hein. Sinon, on est forcément obligé de s'inventer une immortalité, donc de s'inventer...
matière d'une édition de l'école, il y a ce lien qu'il y a entre le besoin de se rassurer, de devenir,
derrière. Donc Dieu était déjà là, sous une forme, je ne sais pas comment.
problème, c'est que nous projetons sur d'autres époques, etc., ce que nous sommes maintenant. Et ça, il est impossible, à mon avis, de se dire pourquoi il mettait les mains dans les grottes. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour nous, les mains, ça a un sens, la grotte, elle a un sens, etc. Mais pour nous, on a dit, on est en plein anachronisme, et insoluble, à mon avis. Après, évidemment, on est tenté d'interpréter, d'essayer de comprendre, c'est notre démarche. Mais de là à dire, il mettait la main pour ça, voilà.
C'est rien, tout à fait.
C'était des fleurs, après, je ne sais pas, moi, la religion essayait de répondre à des vides, à des questionnements. Donc, je me projetais parce que sur le temps, quand même, excusez-moi, je n'ai pas
une ah, oui, qui ça, c'est l'homme qui cherche la réponse,
pas la religion. Et peut-être que, comme dit Catherine, peut-être que justement, la religion crée les questions en même temps que la réponse. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se demanderait pas s'il n'y avait pas la religion aussi. Pas toujours que le besoin est présenté, en fait. C'est pas évident que le besoin est présenté.
Elle est constitutive aussi de notre pensée actuelle, la religion.
Bien sûr, bon, plus qu'en négatif. Enfin, je veux dire en opposition. Tant qu'on continue à essayer de s'y opposer, c'est qu'elle nous agit, c'est qu'elle agit en fonction de nous. Oui, bien sûr.
Je m'excuse, mais j'espère qu'en développement et en tant que sur l'opposition, parce qu'apparemment, tous les personnes qui ont cette obsession en elle. Même la religion,
plus fort,
et pas cette structure. Et je veux dire, nous sommes toujours dans cette circonstance appelée les guerres de position, c'est la société civile qui a décidé qu'à cet engagement, à son unique. Donc il faut sortir de ces obsessions, aliénation, et je veux dire, la conception philosophique est très complexe, et nous aide justement par notre recherche à, si c'est possible, l'individu, s'il s'en sent capable, par son libre arbitre, à se donner la possibilité de basculer dans l'engagement à la philosophie politique, il faut sortir de ces obsessions, à la position à la nation, et recentrer le chemin sur la politique, et voir quelle est l'issue, parce qu'il y a une issue. Ça, même ça c'est arrivé, bon, ben, c'est pas la voie sans issue. C'est plus la voie sans issue, que même ça c'est arrivé, il n'est pas ça. Voilà. C'est tout. Mais là, mais là, on reste dans la religion, l'obsession, la religion, c'était bon, je ne vais citer personne, mais je veux dire, il faut qu'on avance. Je pense, j'espère que les couchers de moi. Voilà, si on est. Moi, je suis là où vous voulez, je suis pas, je connais ça. Je veux dire, c'est que je suis venu, bon, sentir cette atmosphère, c'est l'espoir. Je veux dire, bon, il faut que ça sorte, merde. On reste là sur les positions. Voilà, je crois que moi, j'accepte toutes les questions, mais j'ai des questions. Là, je suis justement la philosophie, on reste dans la philosophie, c'est qui finit, c'est tout là. Bon, on va pas s'accrocher parce que l'arbitraire, après le totalitarisme, les erreurs qui ont été commises, c'est une catastrophe. On est toujours dans le néolibéralisme, pourquoi peut-être Lénine a échoué. Moi, c'est ce que je pense. Hein. On est toujours dans cette obsession. Maintenant, c'est l'obsession de l'islam, c'est l'obsession de l'islam.